Laurence Gini sur Europe 1.
16h, 18h30, Laurent Ruquier.
En effet, pendant 2h30, vous allez pouvoir profiter aujourd'hui de Michel Bernier.
Oui,
Philippe Gueluc.
Bonjour.
Bonjour Philippe. Profitez.
Jérémy Michalak.
Profitez.
Olivier de Kersozo. Pierre Bénichou. Et Titoff.
Je suis arrivé.
Il est bien coiffé, je veux dire. J'ai d'ailleurs un auditeur qui a remarqué votre, non seulement votre nouvelle coiffure, mais aussi votre nouvelle teinture. C'est un auditeur qui me dit: cher Laurent, j'ai vu Titoff à la télé samedi soir. C'était pour lui demander si par hasard, celui qui lui fait les teintures, ce serait pas le professeur et docteur Delajoux. C'est vrai qu'on pourrait se demander quand même si c'est pas lui qui fait ça, parce que c'est spécial, on va dire.
Ça ressemble à
c'est pas commun,
de la coiffure, mais c'est encore autre chose.
Bon, on n'est pas vraiment là pour parler des cheveux des uns et des autres.
Oh, parler d'Alexandre Zoary.
S'il vous plaît, Laurent.
Pardon, Philippe.
Non, c'est un sujet qui m'insupporte.
Bien sûr. D'ailleurs, je crois que vous avez une petite anecdote à nous narrer, cher Philippe, sur Pierre Bénichoux que vous avez croisé hier.
C'est bien la première fois qu'il va nous faire narrer.
Ou une petite promo, peut-être.
Attendez, non, hier soir, on faisait la photo pour le Prime de fin décembre.
Oui.
La photo pour Gala.
Qu'on tourne ce soir.
Et on était tous réunis pour la photo.
Oui.
Et voilà.
Sauf Pierre, qui est arrivé en retard.
Oui, ça, c'est vous qui le dites.
Remarquez-vous aussi, vous êtes arrivé en retard.
Quand
vous êtes, hier soir, vous n'êtes pas venu.
On m'a dit de ne pas venir. Enfin, on m'a rien dit, quoi.
On vous a rien dit. C'est marrant que ceux qui ne viennent pas, on leur dit jamais rien. Ou une mauvaise horaire.
Et voilà. Et donc, j'ai eu l'immense joie de croiser Pierre qui arrivait lorsque moi j'attendais mon taxi pour partir. Et il m'a parlé avec la vitre de sa voiture relevée. C'est-à-dire qu'il était dans sa voiture et il me pose une question. Et je lui fais signe: baisse ta vitre, je ne t'entends pas. Et j'ai cru qu'il me disait en démarrant: va chier, connard.
C'est lui, alors, c'est bien lui.
Je ne t'entendais pas à travers la vitre fermée, Pierre.
Bah non, je disais ta gueule, du coup.
Voilà. Je sais pas si je dois lire le mail qui est adressé à Olivier. Cher Laurent, c'était juste pour dire à Olivier de Kersozon que je suis quimpérois et que je l'emmerde. C'est signé Jean-René de Quimper. Je savais pas que les Bretons, comme ça, se tiraient la bourre à ce point-là, entre le nord des... C'est quoi, Quimper, c'est les Côtes d'Armor aussi, entre le nord des Côtes d'Armor et
Non, Quimper, c'est le Finistère.
Ah, c'est le Finistère, ah, merde. Finistère, ça, c'est de la part d'un Normand, c'est logique.
Je jure, vraiment.
Ah, la géographie.
Ah, il est aussi bon en géographie qu'en radio.
Ah, oui,
j'ai deux blagues. Alors, c'est les pires, peut-être, qu'on ait pu m'envoyer, mais bon, ouais. c'est la fin d'année, hein, c'est le fond de stock. Je les tente quand même, Michel.
Oh, oui, j'aime bien.
À moins que je vous la donne à raconter.
Il faut que je sorte mes lunettes et tout, vous imaginez.
Non, à vous raconter tellement bien. On va se régaler deux fois plus. Ça serait vraiment dommage de gâcher un texte pareil.
Elles sont violentes un peu?
Oh non, c'est une petite vieille de plus de 90 ans, mais fringante.
C'est pour ça que vous pensiez à moi, c'est agréable.
Qui rentre dans une pharmacie. Bonjour monsieur, avez-vous de l'aspirine? Oui, sans aucun doute. Avez-vous des antidouleurs? Oui, aucun problème. Avez-vous des antirhumatismaux? C'est certain, nous en avons. Avez-vous du Viagra? Oui, bien sûr. Avez-vous des pilules antirides? Oui, nous en avons. Avez-vous du gel pour les hémorroïdes? Évidemment. Avez-vous du bicarbonate? Certainement. Avez-vous des médicaments pour le foie? Oui, bien sûr. Avez-vous des antidépresseurs? Oui, sans aucun doute. Avez-vous des somnifères? Oui, nous en avons. Avez-vous des produits pour la mémoire? Oui, quelques-uns. Avez-vous des béquilles? Évidemment. Avez-vous des couches pour adultes? Mais certainement. Enfin, écoutez, madame, nous sommes une pharmacie professionnelle, nous avons tous les produits, quel est votre problème? Je dois épouser mon Léon, 95 ans, à la fin du mois, et nous aimerions savoir si on pouvait laisser notre liste de mariage chez vous.
Oh, c'est mignon.
Elle est mignonne.
Mal, oui.
Hein? Bon, non, vous l'auriez mieux raconté que moi, finalement, Michel. Non,
cette voix de...
Cette voix de
vieille mamie.
Que par vous.
C'est vrai, Olivier, merci, c'est gentil.
Je veux dire, j'étais un peu grognon, et là, tout d'un coup, il y a un peu de lumière qui se lève à l'horizon.
Oh, bah, alors, quand je vous aurais raconté la deuxième, alors là, vous allez être au Nirvana, cher Olivier.
Elle est aussi longue.
Vous faites bien les vieilles.
On
voit que vous avez travaillé longtemps avec Claude Sarraute.
C'est Fabrice Eboué qui fait la queue. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il fait la queue à la caisse d'un supermarché quand il remarque qu'une blonde, mais petite blonde, mais super canon, la quarantaine, qui lui fait un petit signe de la main et qui lui sourit au supermarché. Il s'adresse à elle et lui dit gentiment « Excusez-moi, on se connaît ?» Elle répond en souriant « Je peux me tromper, mais je pense que vous êtes le père d'un de mes enfants. » Alors là, Fabrice réfléchit, puis il repense à la seule et unique fois où il a été infidèle, et il dit « Nom de Dieu, tu serais pas la cochonne que j'ai sauté sur la table devant tous mes potes lors d'une beuverie pendant que ta copine me fouettait avec un céleri mouillé et me poussait un concombre dans le trou de balle ?» Et elle dit « Non, non, je suis la nouvelle institutrice de votre fils.
» Bon. Elle est bien.
En décembre.
Moi, c'est pas mon style.
Je vais citer le nom de l'auditeur, hein. Régis Tranchepin.
C'est un faux nom, ça. Hein.
Pour que sa famille soit au courant, quand même, des blagues qu'il envoie.
Son vrai nom, c'est Coupe-Miche.
Ouais, bien.
Heureusement, nous avons deux vrais auditeurs qui, eux, portent leur vrai prénom, en tout cas, on l'espère, sur l'antenne. Laurie, Anne et Patrice, bonjour.
Bonjour, Laurent.
Laurie, Anne est à Neuilly-sur-Marne. Et je crois, Laurie, Anne, qu'Olivier de Kersauzon a quelques questions importantes à vous poser.
Je voudrais savoir quelle est votre activité principale.
Je suis étudiante.
Étudiante, en quoi, Lauriane ?
En histoire et en sciences politiques.
Oula. Quel beau métier.
Ah oui.
Mais c'est pas un métier, étudiante.
Ah bon ? Alors moi, je croyais qu'il fallait toujours dire quel beau métier quand les gens disent.
Non. Vous êtes à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, Lauriane, c'est en...
À Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis.
Oui.
Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, c'est ça, oui. Pourquoi c'est sur Marne, alors, à ton avis ?
C'est où, alors, Neuilly-sur-Marne ?
Dans le 93.
Ah voilà. Donc la Seine-Saint-Denis.
C'est pas du tout Neuilly-sur-Seine.
C'est carrément Seine-Saint-Denis. C'est Neuilly-sur-Seine qui est dans le 92.
Voilà. Et heureusement que vous êtes meilleur en radio qu'en géographie. C'est pour Lauriane, vous allez affronter Patrice qui est à Millery dans le Rhône. Bonjour Patrice.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et grosse bise à Michel.
Oh, c'est gentil, merci.
Ah bah voilà, c'est
mon premier bisou de la journée.
Et c'est votre préféré, Patrice, dans l'équipe, Michel Bernier ?
Non, mais là j'avoue que j'ai beaucoup de chance parce que tout le monde me plaît.
Cher Olivier, je vais vous prouver que j'ai une vraie batterie de questions à destination des auditeurs. Parce que parfois, je change un peu mon questionnaire. Et il y a longtemps que je n'ai pas demandé à un auditeur comme Patrice, par exemple. Patrice, pourquoi vos parents vous ont-ils prénommé Patrice ?
Très bonne question. Sinon, je suis infirmier.
Eh bien, dans un instant, Patrice et Lauriane, vous tenterez de gagner le Soundlink de Bose. À tout de suite.
Allez, on retourne du côté du studio Merlin. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier. Avec vous, les auditeurs, on joue avec l'actu.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Lauriane et Patrice, je vais vous poser la question qui va vous départager, mais je tiens à rappeler au jeune public présent aujourd'hui qu'on ne souffle pas à mes camarades chroniqueurs, parce que je vois que Pierre et Olivier ont l'oreille tendue vers un parterre de jeunes stagiaires.
C'est l'oreille.
Où le Premier ministre François Fillon sera-t-il ce soir ? Officiellement, en tout cas.
Pourquoi officiellement ?
Parce que c'est indiqué. Je peux pas. On n'est pas encore ce soir. On vérifiera ce soir si c'est vrai.
Il devrait être ce soir.
Où devra-t-il être ce soir ?
À Copenhague.
En France ?
Non. Oui, en France. Pas à Copenhague.
À Copenhague.
Non.
À la salle Pléiel, écouter un concert.
Oui, lequel ?
Le
Sting.
Bonne réponse de Lauriane.
Bravo Lauriane. Je suis heureux de saluer votre victoire et surtout la défaite de salopard de Patrice.
Merci Pierre.
C'est pas très gentil.
Lauriane, en effet, vous avez raison. François Fillon sera ce soir parmi le public de Sting, salle Pléiel, pour assister à ce concert où il va, on l'imagine, interpréter les chansons de son nouvel album acoustique.
Et François Fillon, non,
consacré à l'hiver, qu'est-ce qu'il y a ?
François Fillon va voir Sting.
Bah
là là. C'est la nouvelle qui me bouleverse le plus depuis le coma de Johnny Hallyday. Ah vraiment, c'est extraordinaire. Tu te rends compte, François Fillon.
Il va mieux, Johnny. Alors, il y a une petite pensée.
Oh, il y en a marre. Rien n'est naturel chez ce mec-là. Même ses comas sont artificiels.
Qui est con. Non mais Sting, en revanche, il a changé Sting, hein. C'est plus le blond peroxydé qu'on a connu.
Ah non.
Souvenez-vous du temps de Police.
Ah oui.
Du temps de Police, moi je me souviens. Là, on l'arrêtait tous les deux jours.
Là maintenant, c'est une sorte de gros barbu.
Comment ça, gros barbu, Sting.
En tout cas là, il fait un album magnifique avec 15 chansons dédiées à l'hiver, parce qu'on lui avait proposé de faire un album sur Noël.
Ouais. Non,
bah non.
Pas Sting.
Voilà. Alors, ah non. Ça a
rien à voir l'hiver avec Noël.
C'est un rebelle comme garçon.
Alors,
oui.
Sting, il a dit, vous me voyez chanter des trucs de Noël. En revanche, je veux bien vous faire un album sur l'hiver. Et là, il a pris les plus belles musiques, des musiques de Schubert, de Bach, de Purcell, et il a fait des paroles dessus.
Et il choisit le bon moment pour le sortir.
Oui.
Oui, bah oui.
Mais c'est au mois d'août, ça passait moins bien.
C'est moins bien.
Et il les interprétera ce soir devant François Fillon.
Il sera tout seul, François Fillon? Non, il y aura d'autres gens.
Ouais, j'aime bien celle-là.
C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais il y aura François Fillon. Ah. Non, si Sting, il a toujours un énorme succès. D'ailleurs, je le trouve vachement sympa parce qu'il dit « Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que lorsque j'avais du succès. » Très franc. Comme, c'est très rare un artiste qui dit « J'ai plus de succès aujourd'hui. »
Comme disait Tino Rossi, « Qui a vendu, vendra. » Mais bien sûr. Mais bien sûr, quand t'es...
C'est bien une phrase de Corse.
Il y a des stagiaires qui sont en train de noter Tino Rossi. Alors, T-I-N-O, plus loin, R-O-2-S-I.
Quoi, il parlait de l'occupation?
C'est bien ça pour les petits stagiaires.
Il a jamais vendu,
Tino. Il y a deux types sur lesquels je veux pas qu'on rigole, c'est Tino Rossi et Delajoux.
C'est bien ça comme petit travail pour les petits stagiaires du public de l'émission, de trouver qui est Tino Rossi pour demain.
Voilà. Faites des recherches.
Alors, je vais vous interpréter quelque chose qui va tomber très bien pour vous.
Allez-y.
Tu n'as pas 16 ans, il faut voir comme. Tu affoles déjà tous les hommes.
Oh mon Dieu.
Regarde ton regard, qu'il a d'en fou. Bon, bon.
Bon, bah écoutez, c'est bien, au moins tu leur as donné envie de retourner à l'école.
Lauriane, vous avez gagné une chaîne sur laquelle, on vous rassure, vous n'écouterez pas le dernier disque de Pierre Bénichoux. Un Soundlink de Bose, sans fil. Vous pourrez écouter Europe 1, vos disques, votre musique stockée sur votre ordinateur. Tout ça sans fil, dans n'importe quelle pièce de votre appartement, avec la petite enceinte amplifiée Soundlink que vous déplacerez dans toute la maison, même dans le jardin. C'est le système Soundlink de Bose. Bravo, Lauriane.
Merci
beaucoup. Et pour Patrice?
Et c'est qui la petite enceinte? Elles sont là depuis combien de temps, les stagiaires?
Et Patrice gagne, comme d'habitude,
du chocolat.
Un ballotin d'un kilo de chocolat, Jeff de Bruges, et je vous propose.
Et quand on dit un kilo de chocolat, Jeff de Bruges, et ben c'est un kilo de chocolat vraiment. Parce que les gens, je crois, préfèrent manger du chocolat super intense plutôt que le ballotin. Vous n'écoutez pas la publicité.
C'est quoi ça? C'est la pub?
À la radio? Oui, non. La pub toujours. Chez Jeff de Bruges, quand on vous dit un kilo de chocolat, c'est un kilo de chocolat intense.
Mais tu la racontes bien.
Allez.
Tu raconterais ça à Genève, ça fera un tapas.
Je vous propose d'écouter Sting comme le Premier ministre.
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, si on va gêner, on retrouve Laurent Ruquier et tous ses complices et on continue de s'amuser avec les infos avec vous, les auditeurs.
Je suis certain qu'il y en a au moins 3 d'entre vous qui seront capables de répondre à cette question. Peut-être les 6 même. Je suis pas sûr pour le docteur Kersauzon.
J'aime pas beaucoup que quand vous me parliez, vous me montrez du doigt comme ça. Je crois que ça m'énerve. Je vous prierai de pas le faire, d'arrêter de le faire à partir de maintenant.
Vous croyez que ça vous énerve ou est-ce que ça vous énerve?
Je crois que ça m'énerve.
Ça, même si c'est avec l'autre main.
C'est le fait que ce soit la main gauche qui m'énerve.
Ah voilà. Alors je vais faire...
Et j'attends autre chose d'un génie comme vous, parce que vous êtes un être exceptionnel.
Mais alors là, je suis
quand
pas...
on voit la qualité de vos questions et de vos histoires.
Je suis pas certain, cher Olivier, que vous pourrez...
Non, il a recommencé avec son horrible petit doigt. Je suis pas certain.
Ah, il continue, hein.
Je suis pas certain.
C'est un tic que j'ai.
Moi, je me rappelle un mec qui montrait du doigt, c'était le baron en pain. Tu te rappelles ce qu'on lui a fait?
Il a coupé.
Après, il a arrêté.
Je suis pas certain qu'hélas, cher Olivier, vous pourrez répondre à la prochaine question, car elle est assez réservée, on va dire, aux artistes en règle générale.
Si vous cherchez à m'humilier, il faudra trouver autre chose, je m'en fous complètement.
Quel est le nom du célèbre docteur arrivé hier soir à Los Angeles?
C'est pas Zuccarelli?
Le docteur Zuccarelli, bonne réponse de Michel Bernier.
Mais il faut dire à nos amis auditeurs ce qui est le docteur Zuccarelli.
On va expliquer. Alors d'abord, j'explique qu'effectivement, la presse nous précise que des médecins experts mandatés par les assurances de la tournée de Johnny sont arrivés hier soir à Los Angeles, parmi lesquels le professeur Yves Catonnet et le docteur François Zuccarelli, qui est l'expert des assurances. Et tout le métier, c'est pour ça que je disais les artistes en règle générale, connaissent le docteur Zuccarelli, parce qu'on doit tous, au moins une fois dans notre carrière...
On espère beaucoup de fois, d'ailleurs.
Normalement, une fois par an, même.
Passer la visite médicale.
Alors, ce que je ne comprends pas, il n'y a qu'un docteur pour tout les artistes. Alors, oui, c'est le docteur Zuccarelli.
Il a le monopole. Voilà. Voilà. Il a le monopole.
Je l'ai jamais rencontré, mais est-ce que, confirmez-moi, est-ce que
mais
c'est
nous
lui?
Non plus.
C'est lui qui fume, c'est lui qui fume, qui boit et qui donne son,
à tout le monde. C'est lui qui renouvelle le fait que t'es en bonne santé par courrier tous les ans.
Voilà. D'accord. C'est quand même le seul docteur où on est content d'aller quand nous on est artistes. Parce que plus souvent on y va, plus ça veut dire qu'on travaille.
Oui, et surtout, il nous trouve toujours en bonne santé.
Toujours.
Alors là, quoi que vous ayez, voilà. Vous
par
êtes en bonne
après,
santé.
Oui. Effectivement, après, par contre, il vous poursuive. Hein.
À Los Angeles, il va trouver Johnny en bonne santé, sans doute.
Ouais, mais il en est capable, je vous jure.
Alors.
Ah, bah écoute, c'est impeccable.
Tu nous prépares cette fois-ci.
Ah, vous ne connaissez pas Zuccarelli, vous. Il y a comme ça un médecin des assurances pour les grands sportifs, comme vous.
Pas assuré, je connais personne.
Oh, bon, il n'y a pas la, je sais pas, la Matmut, la MAF, je ne sais quoi.
MMA, peut-être.
MMA.
Putain, il est fort, hein.
Ah non, mais il arrive à placer tous ses sponsors.
Vous avez. Vous avez cité Matmut, des trucs, moi je veux être équitable, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas une assurance.
Il n'y a pas Cerise du groupe AMA qui vient te.
Pas à ma connaissance, non.
Non.
Ça alors, bah nous on a Zuccarelli qui nous assure. Comment voilà, il va trouver Johnny à votre avis? Alors il est dans quel
dans sa chambre sûrement.
Il va le trouver alité.
Johnny alité.
Johnny alité, oui.
Vous, il vous ausculte aussi, Monsieur Zuccarelli, Joujou?
Non, je l'ai jamais vu.
Il est tellement petit quand il fait un toucher rectal, ça lui sort par la bouche.
On gagne beaucoup de temps. Alors, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'assurance pour vous. Alors, vous prenez tous les risques. Alors, vous êtes c'est ce qu'on appelle un véritable aventurier, Olivier.
Ouais, t'es en train d'en prendre aussi des risques.
J'ai beaucoup d'assurance.
Mais il va en falloir. Tu vas ressembler à un pâté pour chien, c'est que tu n'en parles.
Mais si vous voulez, je vous présente docteur.
J'en ai rien à foutre de votre docteur Zuccarelli.
Mais non, mais c'est formidable de savoir qu'il part à Los Angeles. Vous avez vu quand même que là, ça y est, on est à peu près sûr que Johnny ne chantera pas à Amiens.
Oh, moi, je ne dis pas ça. Ne me dis pas ça.
Ah, vous aviez vos places.
Oh non, mais quand même, je pense toujours que je vais aller l'écouter. Dis-moi, Johnny, Sarah, et tout ça. Non, non, je peux pas m'empêcher de penser qu'il va rechanter, moi.
Cela dit, quand on va dire à Johnny dans sa chambre à Los Angeles, le docteur Zuccarelli, il est là, il va vraiment croire qu'il est mort.
Non mais il a parlé, c'est ça qui est génial quand même.
Il a dit on rentre à la maison. Il a
c'est
dit.
La première c'est fois de sa vie qu'il parle.
C'est un bon début pour un chanteur.
Il a vu Laetitia, il dit ah bonjour Sylvie.
Il a dit. dis donc.
J'ai entendu ça dans la voiture ce matin, ça m'a fait tout drôle parce qu'une fois j'étais chez des amis, enfin des amis d'amis, et il y avait Johnny et Laetitia et qui dînaient, et moi j'arrive comme ça, et puis d'un coup il se lève et il fait Laetitia, on y va. Et c'est la seule phrase que j'ai entendu dire. Et quand ce matin à la radio j'ai entendu que c'était sa première phrase, ça m'a fait tout drôle.
C'est un truc de.
Il en a qu'une en fait.
Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait.
Quand il la voit, il va se coucher.
Il a ça et Optique 2000. Il en a tout. Ouais.
Dans un instant, Paul Vermus pour le challenge du jour.
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Philippe Geluck, Olivier Le Carsozon, Jérémy Michalak, Titoff et on retrouve l'ami Polo.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Bonjour Paul.
Bonjour Laurent.
Là, il faut enquêter sévère, hein, et même jusqu'aux États-Unis, parce que je voudrais en savoir plus sur cette femme qui s'appelle Michelle Brown, qui aurait fait des révélations sur la chaîne américaine Fox News. C'est cette entremetteuse qui aurait fourni de jeunes et jolies femmes au golfeur milliardaire Tiger Woods. Il paraît qu'elle aurait tout balancé sur non seulement les habitudes sexuelles, mais les tarifs qu'elle pratiquait avec...
Mais elle n'a pas de lien de parenté avec Eva.
Eva Brown, non, c'est Michel Brown. Et alors surtout, est-ce que c'est autorisé, ça, comme ça, qu'on balance sur la vie privée dans une chaîne?
Oui. C'est une vieille coutume américaine, oui.
Ah ouais?
Ah, mais il payait en plus.
Je sors quelle émission c'était, qui animait ça, est-ce qu'elle a dit, Paul? D'ici 18h, vous pouvez avoir toutes ces infos.
Je vous en dirai même plus sur cette affaire, qui est assez plaisante.
Moi, j'ai une théorie là-dessus. J'ai une théorie. C'est que l'Amérique a pu mettre en noir comme président. Elle a eu ce coup de génie,
mais
de
pas
courage, mais pas de vivre avec lui. Donc elle essaye de trouver une effigie de Barack Obama, qui est justement Tiger Woods. Et elle dit, ouais, il couche avec des femmes, ouais, il est milliardaire.
Quelle honte.
Tu comprends?
On devrait reparler du coma de Johnny, ça nous ferait du bien à tout le monde.
Il m'énerve, l'autre là-bas, si c'était pas si fort, je casserais la gueule.
Quoiqu'au Sénat hier soir, le projet de loi sur le redécoupage électoral a été rejeté. C'est une erreur de vote d'un sénateur de l'Union centriste. Alors, j'ai pas bien compris. En fait, il devait voter, j'imagine, pour un nombre plus important de sénateurs qui auraient permis ce vote. Et puis finalement, le vote a été repoussé.
Je, je, je vais éclaircir l'énigme. Je vous rappellerai que Jean-François Lamour, à l'Assemblée nationale, a fait aussi un couac il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
Justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne nous donne pas le nom dans la presse de ce sénateur qui a déconné. J'aimerais bien avoir le nom.
Je vais vous trouver tout ça.
Du sénateur à cause de qui la majorité ne peut pas faire passer son découpage électoral.
Ne vous inquiétez pas, Laurent. Vous aurez tout. C'est un vrai paquet cadeau que je vais vous donner aujourd'hui.
Et puis, alors, il y a quelque chose de plus étonnant encore. On a appris hier dans le Figaro que le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme avait été décerné par l'Union des patrons et des professionnels juifs de France à, écoutez bien, Brice Hortefeux. Moi, j'ai cru que c'était une blague au départ, parce que c'est vrai qu'il s'est illustré cette année particulièrement dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et est-ce que c'est une blague? Pourquoi ils ont choisi Hortefeux, l'Union des patrons et des professionnels juifs de France? Quels étaient les autres candidats en lice face à Brice Hortefeux?
De toute façon, cette association ne devrait pas exister. Que ça veut dire, l'indice des patrons juifs de France? Ça veut dire quoi? Ils veulent quoi? Qu'on refaire du numerus clausus comme en 1940? Ces connards là. Alors comme ils pensent que Hortefeux est anti-arabe, ils disent bravo Hortefeux. C'est honteux, c'est un déshonneur. C'est un déshonneur pour les juifs, ce genre
non,
de
truc. Non, Bénichou, voilà. Vous êtes excessif.
Ta gueule, toi. Tu t'appelles pas Vermus depuis longtemps, alors ferme ta gueule.
Oui, Paul.
Il est peut-être bon que je raccroche.
Ah non.
On va chanter un petit chant de Noël. Attends, là, pour calmer tout le monde.
Quand vous dites qu'il serait peut-être bon que je raccroche, vous parlez de votre métier ou du téléphone?
Des deux, mon colonel.
Alors oui. Bon, en tout cas, Paul, vous avez trois challenges très importants. Vous avez vu, c'est pas de la mince affaire.
Non, j'y vais tout de suite. Hein.
On vous retrouve avant 18h, alors c'est promis. À tout à l'heure, Paul. Merci. Ah tiens, j'ai un nom que vous ne connaissiez peut-être pas, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas Philibert. Et Nicolas Philibert a des révélations à faire, mais sur qui et à propos de quoi?
Nicolas Philibert?
Il a des révélations.
Donc c'est un nom bien français, hein?
Oui, ça c'est pas...
C'est pas Nicolas Philibert.
Est-ce qu'il a un listing dans une banque avec des gens qui auront un compte en Suisse?
Du tout.
Ou c'est un copain de l'autre?
On a donné le nom hier.
Hervé Falciani, ça, mais ce serait pas un copain d'Hervé Falciani, non?
Du tout. Aucun rapport avec les comptes en Suisse.
Il a à voir avec la politique?
Non plus.
Le cinéma?
Non plus.
Les people?
Non plus.
Non, le...
Il a des révélations à faire, Nicolas Philibert. Et d'ailleurs, il les a faites et ça fout un beau bordel.
Ah oui.
Sur un dysfonctionnement d'une entreprise?
Dysfonctionnement, c'est pas...
Enfin, genre France Télécom, des choses comme ça?
Non.
On est au courant, nous, des révélations qu'il a faites?
Ah ben, en tout cas, c'était dans la presse aujourd'hui, si vous aviez travaillé et lu un peu les journaux.
C'est sur une personne connue, donc tu es sur une personne très connue.
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Ah oui, vous qui d'habitude feuilletez toute la presse, travaillez bien cette émission, révisez avant de participer et être incollable sur tous les sujets. Déjà, je note que vous connaissez pas le docteur Zuccarelli. En deux, maintenant, je vois que Nicolas Philibert, vous êtes aussi inconnu.
Remontre-le du doigt pour voir en même temps. Voir comment ça passe.
Je suis un peu déçu, monsieur Olivier.
Je trouve, écoutez-moi, je change de camp comme rien, moi. Alors, je peux vous dire que quand il dit je suis un peu déçu, hein, il ne dit que le centième de sa pensée.
Tu vas arrêter d'emmerder mon ami Olivier. Tiens, Olivier, voilà l'article de Laurent.
Il y a la réponse dessus.
Non, c'est dégueulasse. Donne-nous la réponse.
Ah non,
c'est dégueulasse.
Dis-nous qui est Nicolas. Attendez, vous allez pas emmerder mon ami Popeye tout de même. Je l'ai vu manger ses épinards ce matin. Je vous assure qu'il faut pas le provoquer. Alors c'est qui Nicolas Philibert?
Même en lisant l'article, j'arrive pas à comprendre.
C'est ce qui fait la différence entre vous et moi, cher Olivier.
Alors on lui rend.
D'après ce que je sais de l'affaire, parce que le journal m'est passé vite devant, ça se passe dans les transports en commun.
Pas du tout.
Il y a des victimes. Moi j'ai vu qu'il y avait des victimes.
Mais pas du tout.
Alors, ça a un rapport avec l'électricité.
Voilà.
Du tout.
Mais vu la mauvaise foi de ce mec, maintenant il sait qu'on sait.
Il fait écrire des faux journaux.
C'est sur la télé? C'est sur la télé, le monde de la télé?
C'est pas un rapport avec du rugby?
Du rugby, non.
Du foot?
Non, du foot, oui.
Ah, du foot, c'est un arbitre?
Non.
Non, c'est un joueur. Un grand joueur, mais très peu connu.
C'est pas un joueur.
Des révélations sur Thierry pour la Coupe du Monde?
Non.
C'est un mec de la FIFA?
Non.
C'est un amateur de football.
Ça, il aime forcément.
C'est un des spectateurs.
C'est un président de club.
Non, c'est un. Je vais vous dire qui c'est, Nicolas Philibert. C'est un agent de joueur.
Ça y est, j'ai un flash là. Je sais de quel joueur c'est.
T'as un flash,
c'est le gardien remplaçant de Coupé.
T'as eu un drôle de flash.
J'ai une vision comme ça.
Tu vas aller t'asseoir derrière Laurent 5 secondes.
Non, j'ai une espèce de.
Mais
attendez, parce que c'est.
Vous savez, j'ai appris, ça c'est une information primordiale concernant le foot que vous n'avez pas donnée. Pourquoi à Kaboul, il n'y a pas d'équipe féminine de foot?
Non.
Mais parce que les joueuses en burqa, elles pourraient transporter le ballon sans qu'on voit où il est. Vous comprenez? Et puis d'un coup elle se déplace et puis d'un paf et c'est goal. Et on n'a rien
la
vu.
Réponse Titoff, qu'on en finisse avec
C'est l'agent du gardien de but qui remplace Grégory Coupé au PSG.
Et alors, qu'est-ce qu'il a comme révélation?
Vrai gardien de but.
Si.
Non, mais il a plusieurs nationalités, c'est-à-dire qu'il
c'est
est ici
le mari de la gardienne de but.
Voilà.
La gardienne de nuit.
Oui. Je vais vous dire, à cause des révélations de Nico.
Il n'est pas gardien de but.
Si, mais il y a un problème sur son âge et sur son identité. On n'est pas sûr qu'il ait le bon âge. On
et qu'il n'a pas la bonne identité.
On n'est pas sûr que ce soit bien lui.
Ouais.
En tout cas, c'est ce que dit son ex-agent Nicolas Philibert.
Ah non, c'est un mec qui lui en veut. Donc.
Oui, qui lui en veut parce qu'il ne l'a pas payé apparemment.
Ah bah c'est ça.
Il réclamait 30 000 euros pour qu'il se taise et qu'il ne fasse pas de révélation. Le joueur n'a pas voulu payer. Alors qu'est-ce qu'il a fait Nicolas Philibert? Il a appelé Michel Hidalgo. Il l'a dit à Michel Hidalgo. Lequel Michel Hidalgo a appelé Saint-Etienne? Quel match il y avait ce week-end?
PSG Saint-Etienne.
Ah bah Saint-Etienne contre PSG.
Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Saint-Etienne?
Ils ont perdu 3-0.
Non,
ils ont perdu, mais ils ont porté réclamation parce qu'ils estiment que le gardien du Paris Saint-Germain n'est peut-être pas celui qu'on dit. À partir de là, ils vont peut-être perdre sur tapis vert, c'est ainsi qu'on appelle ça. Le match, le Paris Saint-Germain, à cause de qui? À cause de
Nicolas Philibert.
On comprend qu'on ait passé une heure sur lui, c'est quand même un homme d'honneur. Il commence par un chantage, il finit par une dénonciation, et après ça, il a sa photo dans le Parisien, qu'est-ce que tu veux de mieux? Il pourrait venir ici. Sérieusement.
Excusez-moi, mais pour vérifier si c'est vraiment lui ou si c'est pas lui, ou s'il était à sa place ou pas, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est regarder la bande du match. On va devoir visionner la vidéo.
Mais non.
Or, on ne peut pas.
D'accord,
on
d'ailleurs,
pas,
on va la regarder pendant une demi-heure, la vidéo. Tu viens?
D'autres questions dans un instant.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier
jusqu'à 18h30.
Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. On va se gêner, vous le savez, c'est jusqu'à 18h30. Je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez évidemment assister à l'émission en appelant le 3921 en allant sur europe1.fr.
On va se gêner sur Europe 1.
Droite, gauche, centre, centre.
C'est la question politique.
Pourquoi Martine Aubry n'ira peut-être pas finalement à Copenhague?
Parce qu'elle a la grippe.
Parce qu'elle a la grippe et la 39 de fièvre. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Pas du Philibert, ça, hein.
Mais comment vous savez ça? C'est vous qui lui avez pris sa température?
Ce qu'il est amusant! Oh, ce qu'il est drôle! Vous avez vu les enfants? Hein? Ça vous fait rire, les enfants? Hein? L'humour ne perd pas ses droits! Il lui a pris sa température! Non, mais vous n'avez pas honte? Vous accepteriez que je vous dise ça de Ségolène Royal?
Ah, ben je prendrais volontiers la température de Ségolène Royal.
Quelle vulgarité!
Bah, aujourd'hui, je vous signale qu'on prend. C'est vous qui êtes vulgaire, cher Pierre Bénichou, et surtout archaïque. Forcément, vous êtes resté à l'époque où vous mettiez le thermomètre dans le cul pour avoir la température. Aujourd'hui, je vous signale que pour avoir sa température, on se la met sous le bras.
Et même dans l'oreille.
Dans l'oreille.
Dis donc. Avant de parler mon don derrière, tu te laves la bouche, d'accord? Non, mais je jure que c'est vrai. J'ai vu l'autre jour, j'ai demandé un thermomètre chez moi. Dit, oh là, le méchant, apportez-moi un thermomètre. Il m'en apporte deux. Et je me sentais un début de grippe. Et je me sentais
un début de grippe.
Et t'as mis un thermomètre dans l'oreille et un autre ailleurs.
Sa femme m'a raconté, il se l'est mis dans le fion, mais elle s'était trompée, elle lui avait apporté le baromètre.
Et ça, en revanche, c'est fin.
C'est ça qui est arrivé avec cette démarche de vieux cow-boy qu'on aime.
Il faut plus le laisser faire trop long séjour en Belgique. Il retrouve ses origines. Non, alors, j'ai mis ce truc-là, et ça démarrait pas le thermomètre, parce qu'il marche pas dans le machin. Il marche que sous le bras. Mais je trouve ça ridicule. C'est dans les films américains qu'on voit les trucs avec le thermomètre sous le bras.
Plus, c'est terrible parce que Pierre, ceux d'aujourd'hui, ils font du bruit. Alors si vous êtes laissé pendant un moment...
Quoi, ils font du bruit?
Heureusement qu'il n'a pas pris l'avion.
Quand la température est à point.
Attendez, bip,
ça fait bip, bip, c'est la première fois que vous faisiez ce bruit-là de par là.
Non, hein. Bip, impossible.
On va taper bip, bip maintenant. Je crois que Laurent confond avec son téléphone, en fait. Non,
maintenant, aujourd'hui, il y a longtemps que vous n'avez pas pris votre température. Non, mais regardez-moi ça, mais ils sont archaïques, c'est incroyable.
Il y a même sur le front, tu peux même sur le front.
Aujourd'hui,
il y a même des petits scratchs, là.
Et comme un couillon, je suis sûr, vous l'avez agité comme ça, comme un malade avant.
On baisse, ça s'appelle.
Comment?
On baisse le thermomètre.
Ah ouais, mais c'est fini ça en France.
C'est fini ça.
Non,
c'est
plus le thermomètre.
Bien sûr, c'est mauvais le mercure.
C'est fini, foutez mon enfance par terre. C'est ça que vous voulez.
Mais ouais.
Moi je me souvenais toujours.
C'était
et les lavements, c'est fini aussi.
Non, non, ça c'est bien très à la mode ça.
Les lavements, vous mettez le boc à lavement très haut comme ça. C'était bien. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer les garçons.
Laurent, mais vous voulez m'expliquer comment on n'est pas fichu d'obtenir un bulletin de santé officiel à l'hôpital pour Johnny Hallyday?
Oui.
Et qu'on a la température de Martine Aubry quasiment en direct.
39 degrés, mais à Copenhague, ils se réunissent en sommet pour la faire baisser. C'est tout le projet.
Mais c'est quel hémisphère qui a trinqué le plus?
Écoutez,
j'ai fait une petite grippe, elle a fait un tour de France.
C'est pas la grippe A non plus, hein. C'est juste une grippette de 39 degrés de fièvre. Bon, voilà.
Elle pense que l'information signée Philibert encore, ça c'est pas sûr.
Et ça a été une information dévoilée par Europe 1 et Le Parisien aujourd'hui, quand même.
Par le téléphone rouge, non, ça n'existe plus.
Oh non, mais y a personne.
Moi, j'en ai entendu une autre d'information aujourd'hui. Allez-y. Par Europe 1, de Rachida Dati.
Ah, mais on va en parler tout à l'heure.
Qu'est-ce qui arrive, Rachida?
Non, on peut pas vous dire, on va en parler tout à l'heure.
Elle s'ennuie un peu à Strasbourg.
Elle s'ennuie à Strasbourg.
Sans s'en douter.
Je sais pas si on va.
Attends, il y a le marché de Noël qui est très joli à Strasbourg.
Ouais, mais à un moment donné, elle a répondu à des journalistes et puis elle avait oublié de débrancher son micro.
Qu'est-ce que je me fais chier, elle a dit et tout.
Bah écoutez, on a la conversation.
Là, tu sais où je suis? Je suis à ma place, et je sais pas si t'entends derrière, je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg, là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense qu'il y aura un drame avant que je finisse mon mandat, là. Je suis obligée de rester, là, de faire la maline, parce qu'il y a juste un peu de presse, et d'autre part, il y a l'élection de Barroso. Oui, il va être élu, mais il faut que tu... Oui, mais si tu veux, quand t'es à Strasbourg, on voit si tu votes ou pas. Sinon, ça veut dire que t'es pas là.
C'est terrible, quand même.
Ça fait chier.
En même temps, c'est dégueulasse, je trouve. De le diffuser et de le rediffuser.
C'est rare que...
Et qu'il y ait des gens dans une émission d'humour qui le rediffusent encore.
Ah, mais de toute façon, c'est pas...
C'est rare qu'il y ait une saucisse qui se plaigne d'être à Strasbourg, quand même. Hein.
Mais en même temps, moi, je lui en veux pas parce que je pense qu'on peut de temps en temps en avoir marre d'être là où.
Mais bien sûr, n'importe qui, si on enregistrait.
Tout de même, c'est quand même le représentant de l'État.
Strasbourg, c'est formidable quand même.
Ah oui, vous aimez Strasbourg, vous?
J'adore. Je suis allé une fois, c'est d'une beauté, cette cathédrale rose, ce pays qui est au centre de l'Europe, le Rhin qui coule à côté, là, sans bruit, en déroulant l'histoire. Moi, j'adore Strasbourg, c'est formidable.
Les maisons où il y a les poutres à l'extérieur.
Voilà.
C'est peut-être pas de Strasbourg dont elle a marre.
C'est une beauté.
Cela dit, ils sont pas cons là-bas, ils ont mis les poutres à l'extérieur, tu vois un peu la place que tu gagnes à l'intérieur. Et puis ces vols de cigognes qui apportent les bébés saucisses dans les choucroutes.
C'est honteux qu'un homme politique se laisse aller à dire des choses comme ça. Bah, il faut qu'ils apprennent à pas parler comme des chartiers.
Exactement.
Après, ils disent, pas dire cette chose.
Ah non, elle croyait que c'était éteint.
Le genre, casse-toi, pauvre con, ou autre...
Ça ne se dit pas non plus.
Ça ne se dit pas. Après, on s'étonne qu'ils reçoivent des trucs sur la gueule.
Là, c'était privé.
Là, c'est différent. C'était dans une visite au salon de l'agriculture. Le président de la République, c'est différent. Mais là, Mme Dati, pardon, je vais prendre un peu sa défense.
Moi aussi, je prends sa défense.
Si on enregistrait nos conversations téléphoniques hors antenne, ce serait assez terrible, quand même.
Oui, mais on n'est pas représentants du peuple.
Voilà.
Mais peu importe.
Et nous, dans nos conversations,
c'est des êtres humains, déjà.
On se plaint pas d'être avec vous à Europe, alors que elle a été élue pour aller à Strasbourg. Ouais. C'était écrit sur le bulletin de vote, donc elle la ferme.
On devrait enregistrer.
C'est vrai.
C'est quand même un peu sous-entendu.
Il y avait écrit Strasbourg, il n'y avait pas écrit Cannes.
Non. Ça, c'est sûr.
C'est un peu sous-entendu qu'elle dit.
J'irai me présenter, mais c'est vrai que pour aller à Strasbourg, il faut du mérite quand même.
Oubliez qu'on a fermé son micro et dire « Oh putain, qu'est-ce qu'il y a à bouffer aujourd'hui? J'adore ça, je me suis fait un mec hier soir. » Ça, c'est la vie privée.
Bah, ça aurait été diffusé pareil sur le net.
Oui, d'accord, mais ça aurait été marrant.
Plus encore.
Mais là, qu'elle dise ça, c'est exactement comme si quelqu'un disait « Ah ben, le Téléthon, dis donc, je m'en suis foutu plein les fouilles avec l'argent des... »
Mais ça se trouve, il y en a qui se le disent.
Avec l'argent des petits infirmes, qu'est-ce que je m'en suis foutu plein les fouilles? Tu dirais, c'est pas possible. Voilà. C'est un homme qui appelle à la générosité publique et qui avoue, comme ça, qu'il est en train de voler cet argent-là. C'est pareil.
Et en plus,
elle n'a pas dire qu'elle s'emmerde à Strasbourg.
En plus de s'emmerder à Strasbourg, elle a piqué dans la caisse du Téléthon.
Oui.
C'est vraiment
ça.
Parce que ça, c'est grave. Je vais vous dire qu'elle avoue avoir pris de l'argent des myopathes. Ça, c'est impardonnable. Ça, c'est
elle a été la maîtresse de Crozmary pendant longtemps.
De Crozmary's Baby.
Je le tiens par Nicolas Philibert.
Elle a été la maîtresse de Crozmary's Baby. Non, et qui a tourné ce film? C'est Roman Polanski. Et voilà, la boucle est bouclée. Et voilà. Ils se tiennent tous. Ah si, c'est ignoble.
Non, comment tu... pouvez-vous parler? Est-ce que c'est des vrais Français tous ces gens-là?
Moi, ah, mais non, moi je te renverrai ça vite fait la douille.
Oh là là.
Tu as pas un bateau à prêter, Olivier? Qu'on puisse les mettre dedans et qu'ils repartent à la rame, parce qu'on va pas leur donner des voiles et du vent en plus. Tu vois, à la rame.
Vous rendez compte de ce que vous racontez? Vous n'êtes pas un peu honte quand même?
Je trouve que vous avez dépassé certaines limites. Bon, c'est marrant, remarquez.
Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
On va se gêner jusqu'à 18h30.
Pourquoi? Non, c'est pas la pause, monsieur.
Il y avait une odeur de pause.
Oui, non, c'est pas la pause. Non, mais on a cru.
La pause,
on a cru un moment qu'il y aura un flash spécial pour annoncer la mort de Johnny, mais ils vont le faire à 18h. On va arrêter l'émission pour ça.
Il va mieux, Johnny, enfin.
Johnny mourra jamais, Johnny.
Dans nos cœurs, en tout cas, Johnny.
Dans nos cœurs, il reste toujours là, Johnny.
Johnny, il est immourable.
Ah, ça, c'est vrai. Je suis immourable.
Immourable.
Personne peut me venir à bout.
Les départements de l'Oise et des Ardennes sont deux départements un peu spéciaux ces jours-ci. Pour quelle raison?
Il fait froid.
C'est-à-dire?
Bah, il fait froid partout. Il fait plus froid dans ces deux départements-là que dans les autres.
Ils ont le record de froid de depuis des années.
C'est-à-dire qu'il y a un niveau.
Moins
en négatif.
Niveau alerte 3. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
C'est vrai que Jérémy Michalak, il travaille plus que nous. Il était, tu te rends compte?
Ça veut dire de bonne réponse
sur nous. Il sait que c'est de niveau 3 contre le froid des dents.
Eh oui.
Je comprends que tu fasses des études, petit gars.
La chute générale des températures est arrivée. Le plan grand froid est activé. On nous donne des conseils partout dans les journaux pour avoir un peu moins froid. Et je me disais, ce matin, je vais pas lire les articles. C'est pas la peine. Parce que autant profiter des compétences des uns et des autres. Il y a bien quelqu'un qui peut me donner des conseils pour lutter contre... je vais lire les articles.
Il regarde Olivier, il s'est dit bon. Non, mais il va pas les dire. Il s'en fout de ça.
Non, vous, alors, vous savez lutter contre le froid.
Olivier, est-ce que tu vas pas répondre à un mec qui te montre du doigt depuis une heure, hein?
Non. Laisse-le continuer son petit baratin.
Olivier, regardez, j'ai les mains dans le dos, Olivier.
Oui.
Et je suis sûr que vous pouvez me donner 2-3 conseils pour avoir un peu moins froid aux joues, un peu moins froid au bout des doigts. Savez-vous, sur un bateau, ça, vous l'affrontez, le froid. Alors, nous sommes.
À Tahiti, ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est toujours ça. À Tahiti en ce moment, surtout.
Non, mais.
Il fait 30.
Pendant vous, quand vous faites vos courses.
Oui, et alors?
Et dire quand chez tu vas Picard. Au supermarché, chez Picard, il se couvre. C'est le seul fois.
Non, mais je suis sérieux, là. C'était, en plus, très intéressé de ma part.
Oui, oui,
mais
oui, ça.
Vous avez des gants, vous avez des moufles, vous avez quoi sur un bateau, vous?
Ça va intéresser les gens dans le 5e arrondissement de savoir ce qu'on fait en plein milieu de l'Atlantique pour se prémunir.
Oui, monsieur, ça va intéresser.
Oui, monsieur, parce que je sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle les gens marchent dans les rues en ce moment tellement il fait froid.
Ouais.
À moins que ce soit la grève du RER. Mais en tout cas, on voit bien, tout le monde se pèle, quoi. Alors, si on pouvait avoir un ou deux conseils d'un expert, un homme qui a lutté contre.
Bah, pour lutter contre le froid, faut acheter des voitures bien polluantes pour que la planète se réchauffe. Vous pouvez pas passer votre temps à pleurer que la planète se réchauffe et dès qu'il fait zéro, à se mettre à pleurer qu'il fait froid. Il faut être logique quand même.
C'est vrai.
Donc le froid est assez.
Non, mais est-ce qu'en mer vous mettez des gants ou pas?
Ça dépend.
Moi j'ai un truc contre le froid. Mais si vous habitez
non mais toi on s'en fout, toi tu fais pas du bateau.
Il fait du Thalys.
Il y avait un petit blanc. Enfin
on a une précision, ce qui ne fait jamais sur la façon dont on se conduit sur un bateau, ce qu'il ne veut pas faire. On est tous sous les minutes. Moi en général, toi on n'en a rien à foutre.
Rien à dire, enfin Gueuluc.
On s'en fout là, quand il fait froid tu dessines et tu es à l'intérieur, t'es chez toi.
C'est con parce que c'était vraiment un bon truc, mais tant pis.
Oui, mais c'est
et ça aurait même pu intéresser des pauvres, mais tant pis.
Mais c'est vieux dessin dans la cheminée.
Bon, alors ça c'est pour les mains, mais pour les pieds, alors vous avez plusieurs couches de chaussettes, plusieurs parce que
il répondra plus maintenant, il a été vexé.
Vous avez forcément le pied humide.
Non, vous avez des grosses bottes en caoutchouc étanche.
Regarde l'autre.
Non, on a des ballerines en veau morné. À l'intérieur, c'est une petite fourrure, c'est de la couille de rat juvénile, hein, le rat de 8 mois, la couille de rat de 8 mois. Qui est très ufteux, qui est très chaud, qui s'intercale bien entre l'intérieur des doigts de pied pour éviter le gel. Et à l'intérieur, on a une petite souris. Dans l'intérieur de la botte, il y a une petite souris qui fait tourner une sorte de roue et qui est faussement attirée par la soi-disant odeur des pieds qui ressemble à celle du fromage, qui n'est pas le cas sur mon bateau, et ce qui donne de l'électricité avec des réostats qui chauffent le bas de la botte.
C'est ça.
Vous avez compris ce que vous
expliquez? Mais ça fait pas faux contact avec les talons aiguilles?
Et on a les mêmes pour Rachida Dati quand elle va à Strasbourg.
Ben voilà, y a, là au moins on a une réponse, hein, Michel.
Ah oui, c'est intéressant, j'ai hâte d'aller m'acheter des souris pour me faire réchauffer les pieds.
Et c'était tout con parce que moi j'avais un truc formidable.
Et ben on saura peut-être après 17h.
Et même pour les pauvres.
Laurent Ruquier sur Europe 1.
On va se gêner.
C'est la deuxième heure de l'émission, toujours avec Pierre Bénichou, Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc et Olivier de Kersauzon. Sans oublier Anne-Laure et Pierre au téléphone. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Anne-Laure, bonjour. Et là, on va voir si vous êtes malin, si vous connaissez bien les gentilés de tout notre pays. Anne-Laure est cadurcienne, ce qui veut dire qu'elle est de...
Chartres.
Pas du tout.
Cahors.
De Cahors. Cadeau. Bravo Philippe.
Cadurcienne, c'est Cahors.
Hein. Et ouais, ça j'avais retenu. Anne-Laure est cadurcienne. Et qu'est-ce que vous faites à Cahors, Anne-Laure?
Je suis conseillère aux entreprises du tourisme à la Chambre de commerce.
Parfait. Et vous nous écoutez tous les jours?
Oui, en podcast par contre.
Pierre est à Rouen, en Seine-Maritime. Bonjour Pierre.
Bonjour.
C'est un Rouennais.
Oui, presque à Rouen.
Il y a un niveau d'émission
c'est-à-dire
là.
C'est-à-dire où?
Sotteville-les-Rouen.
Quoi? À Sotteville-les-Rouen. Je connais bien Sotteville.
À Sotteville.
Eh oui, c'est sur la rive gauche de Rouen.
Voilà.
Ouais, c'est très beau.
Vous connaissez aussi Sotteville? Ouais. Vous moquez pas de Sotteville parce que mes parents étaient de Sotteville, monsieur.
Ça m'étonne pas qu'ils aient fait un monde pareil. C'est un très bel endroit, c'est magnifique.
Ah, Sotteville.
Sotteville. C'est le fleuve là entre
la Seine,
Rouen
s'appelle la Seine.
Et le Havre, c'est une beauté.
La Seine.
Beauté.
Il y a peut-être plus joli que Sotteville en même temps, hein, en Seine-Maritime, Pierre. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oh non.
Rouen est une très belle ville.
Ah ouais,
ouais.
Quand on n'a rien vu d'autre, c'est magnifique.
Ouais. Anne-Laure, Pierre, vous avez les moyens, enfin, j'espère que vous aurez les moyens de gagner le système de musique sans fil Soundlink de Bose avec lequel vous écouterez votre musique préférée à distance, sans fil, grâce à l'enceinte amplifiée Soundlink que vous déplacerez dans toute la maison grâce à son émetteur longue portée. Mais pour ça, il faudra répondre à cette question plus rapidement que mes camarades qui vont vous laisser 10 secondes d'avance. Qu'est-ce qui mesure 7,80 m et qui a été vendu 105 400 euros?
Un morceau de la Tour Eiffel.
Oh.
Bonne réponse de Pierre.
Bravo. Mais quel morceau?
Escalier.
Alors, c'est un morceau d'escalier.
Et voilà, 40 marches pour plus de 85 000 euros, presque. C'est marrant parce que...
Et c'est idiot parce que c'est les 40 premières.
Du coup, on peut commencer.
Ils auraient mis les 40 dernières, on pouvait encore utiliser un peu la toile. Là, c'est fini.
T'es obligé de prendre l'ascenseur.
Mais non, mais elles ont été enlevées, démontées en 83, ces marches-là. Et le monsieur qui a acheté ces marches a acheté aussi un morceau du mur de Berlin. C'est un collectionneur.
Ça va être joli chez lui. Ça va être joli chez lui.
Ça me rappelle une chose formidable, c'est que Roger Hanin raconte qu'un jour il était avec Mitterrand en voiture et Mitterrand lui dit « Je vais peut-être supprimer la Tour Eiffel ». Alors il dit « Non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça ». Et l'autre lui avait dit ça comme ça pour rigoler. Et alors il dit « Mais pourquoi j'ai le droit si je veux supprimer la Tour Eiffel ?» Et pendant 2 jours, Hanin lui téléphonait tout le temps en lui disant « Surtout ne faites pas ça François, vraiment, ça va vous nuire, ça va vous nuire ».
Il l'a pas fait, mais en tout cas, évidemment, le morceau d'escalier qui a été... Et c'est une belle anecdote que nous en a Pierre. Hein.
C'est une tranche de vie, quoi.
Voilà.
Ah non, mais alors là...
Il vaut mieux une tranche de vie qu'une tranche de paix, comme toi.
Et la fois où il voulait vider la Seine aussi, elle était...
Tu nous la racontes, non?
En hommage à Paris, cette vente aux enchères qui s'est déroulée à Richelieu-Drouot a permis de vendre cette pièce phare, ce tronçon d'escalier, 7,80 m de hauteur, 40 marches, estimé entre 60 et 80 000 euros, finalement parti à 105 000 euros. C'est un monsieur de Troyes, dans l'Aube, qui a acheté ce tronçon.
Non, mais on peut pas que raconter des souvenirs de vie personnelle, mais là, on peut rendre grâce à Roger Hanin d'avoir sauvé la Tour Eiffel, parce que les chefs d'État n'écoutaient pas toujours leurs amis et conseillers.
C'est vrai.
Moi, je me souviens, c'était en 38 ou 39, c'était Hitler qui était en voiture avec Pierre Bénichou. Et il disait, je crois que j'enverrai la Pologne. Et Pierre lui disait, non, faites pas ça, faites pas ça. Il a téléphoné pendant 2 jours. Eh ben, Hitler l'a fait quand même. Comme quoi, t'avais pas l'influence que Hanin avait sur Mitterrand.
Mais oui, parce que la sœur d'Hitler était, qui était ma femme. Tu sais, m'aimait énormément, mais elle disait à son frère, elle lui disait,
il est un petit peu.
Non, l'écoute pas. Je fais bien l'accent allemand. Je fais bien la sœur d'Hitler.
Oui. Oh, je fais bien la sœur d'Hitler.
Tu fais mieux Roger Hanin quand même.
Je voudrais signaler à Anne-Laure qu'elle a perdu et dire à Pierre.
Cadeau Anne-Laure.
Oui, elle a gagné.
Cadeau Gilles de Bruges.
Elle a gagné des chocolats.
20 points au chocolat.
Voilà, Pierre va recevoir son système Sandlink de Bose et Anne-Laure, elle, eh bien, aura la chance quand même de manger 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges puisqu'on vous envoie le ballotin le plus vite possible, Anne-Laure.
Super, merci beaucoup.
Merci à tous les deux et on vous offre à l'un et à l'autre chacun un DVD de Jackie Love, le docteur. Oui. Interprété par Titoff.
Et vous avez le bonjour de Jacques Ballotin, de chez Jeff de Bruges.
Non, écoutez, ça fait 8 jours que j'ai pas osé.
Eh ben, vous auriez dû.
Franchement.
Parce que c'est moi qui resterai dans l'histoire et pas vous.
Il les a toutes faites aujourd'hui.
Je préfère que vous restiez dans l'histoire pour ça que moi, voyez-vous. À tout de suite.
Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, c'est tout à fait normal. Vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier pour On va gêner, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Ah oui, ça fait du bien, un peu de culture générale. Si je vous dis que c'était un député d'Argenteuil, mais aussi journaliste, et qu'aujourd'hui, 15 décembre, on va lui rendre hommage à Suresnes, là où il fut fusillé par les Allemands. Est-ce que vous êtes capable de me donner son nom?
Il est mort donc. Hein.
Oui,
c'est un peu facile.
Attendez, moi je peux vous donner le nom de tous ceux qui étaient dans le peloton d'exécution. Il y avait Kurt, Helmut, Wilhelm.
Non, hélas.
Hans.
Ils ont été fusillés par des Français.
Ah, il y avait Robert, Marcel, non, Jean-Louis.
Écoutez, c'est un bel
Gégé,
hommage.
Le petit Gégé était prénom, là aussi.
Son prénom, c'était Paul, je me souviens.
Pas du tout.
Paul Vermus.
Non.
Ah non,
pas du tout. Justement, là, on est dans la vraie culture générale.
Mais oui, parce que c'était le rédacteur en chef de l'Humanité.
Exactement. C'était il y a 68 ans.
Et il était.
Journaliste à l'Humanité.
Il était marié.
Et aujourd'hui.
Avec Marie-Claude. Vaillant couturier.
Non. Et tout à l'heure, à 18h, devant la stèle à Beson, face au théâtre Paul-Éluard, eh bien, on rendra hommage. On a beaucoup parlé de Guy Môquet, c'est vrai, ces dernières années, mais il n'y a pas que Guy Môquet, qui était communiste d'ailleurs lui aussi, mais là, c'est un autre communiste, au nom très connu, parce que. Ouais. Il y a à peu près, remarquez, je dis ça, non, parce que moi, c'est, évidemment, Le Havre, c'était une ville communiste. Alors, mais enfin, en tout cas, il y avait une rue qui portait son nom.
Il y en a dans toutes les villes de France.
Et je crois, ah ben, comment vous savez, si vous savez, dites-le.
La réponse.
Ah ben, alors, allez-y.
C'est Gabriel Péri.
Gabriel Péri, excellente réponse de Jérémy Michalak.
C'est ça le nom que cherchait Pierre.
Oui. Ah, c'est lui, Gabriel.
C'est au cimetière d'Ivry qu'au fond de la fosse commune, dans l'anonyme nuit sans lune, repose Gabriel Péri. Pourtant, le martyr dans sa tombe trouble encore ses assassins. Miracle se peut au lieu saint où les larmes du peuple tombent. Voilà. Alors moi je connais pas Gabriel Péri. Hein alors c'est là.
Ouais, ben je vous signale en attendant que c'est le petit dont vous vous moquiez tout à l'heure, le petit Joujou, hein, qui
Gabriel Péri, bien
il sûr, connaît
Gabriel
pas que l'Oise Péri. Et les Ardennes où il fait froid. Il est capable de vous donner le nom de Gabriel Péri, voyez, ouais. Voyez. Ah, il y a pas beaucoup.
Et s'il était à refaire, je referais ce chemin, la voie qui monte des fers par les hommes de demain.
J'aurais préféré qu'il donne la réponse en fait.
Vous avez jamais vont passer la sorge de Johnny et Gabriel, non.
En hommage.
Ça vous serait venu Olivier de Kersauzon, Gabriel Péri?
Ouais.
Ouais. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon.
C'est finalement.
Et pourquoi vous me l'avez pas dit gentiment?
Que je suis malade.
Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit Kersauzounet?
Kersauzounet, il va adorer ça.
Kersauzounet. T'as fait quelque chose.
T'as collé sa grippe, Martine?
Je vais te dire que Kersauzounet plus un doigt, ça va faire beaucoup.
Bon, non, il aime bien qu'on lui donne des petits mots tendres de temps en temps.
J'ai peur.
Notre Olivier. Forcément, vous lui parlez de façon brusque. Moi, je sais que de temps en temps, il faut lui faire une petite. C'est comme Joujou, vous voyez, il faut être gentil avec eux. Hein, ouais. Hein, mon Kersauzounet.
Je te parle brusque. Pas trop gentil, quand même.
Non, mais l'autre connasson à rayures, là, comment il me parle? Tu vas me parler meilleur?
Je suis pas à rayures, ou est-ce qu'il voit des rayures?
Non, je vois plus très bien.
16h, 18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier.
On va se gêner.
17h16 sur Europe 1. J'espère que vous passez un très bon moment en notre compagnie. C'est toujours On va gêner avec Laurent Ruquier. On retourne du côté du studio Merlin. On le retrouve avec ses complices.
Quelle surprise a eu un homme habitant Parthenay dans les Deux-Sèvres. Mauvaise surprise, puisqu'au final, il a failli être condamné à 150 euros d'amende. Une surprise dans sa boîte aux lettres.
Et c'est lui qui a été condamné.
Voilà.
Il a reçu un envoi discret.
Il reçoit quelque chose dans sa boîte aux lettres. Je vais même vous dire quoi, une convocation. Et ne se rendant pas à cette convocation, pour de bonnes raisons. Il a failli être condamné à 150 euros d'amende.
Il devait être juré dans un procès ?
Bravo, on avance. Il devait être juré dans un procès. Et pourquoi ne s'est-il pas...
Parce que c'était le sien, c'était son propre procès ?
Bonne réponse de Jérémy Michalak et Michel Bernier.
Et voilà. Question suivante. Allez, on avance, on avance.
Il était dans le box des accusés.
Pour on développe sur la même.
Pour une affaire
de... Ah oui, parce que c'est ça, c'est la double peine.
Ah si, c'est
quand,
rigolo.
Quand tu trouves vite. Après, tu as toute l'explication de la question. Donc, c'est pas
non,
la peine.
Non, mais attendez, c'est quand même incroyable le hasard.
C'est étonnant. Parce que... C'est vachement intéressant en plus.
Ah, ouais, ah oui, oui, parce que d'abord, ah moi, oui. Je pensais que franchement, c'était foutu un peu n'importe comment cette affaire-là et ça se confirme.
Pas appartenait.
Personne autour de cette table n'a jamais été convoqué pour faire partie d'un jury d'assises.
On connaît personne qui a été convoqué.
Et on connaît jamais personne.
J'ai été convoqué à la cour d'assises, mais pas pour être juré, moi.
Bah oui,
pour être jugé.
Déjà que c'est très rare qu'on fasse la connaissance de quelqu'un qui a été désigné comme juré, mais alors encore plus rare sûrement d'être désigné comme juré quand c'est vous l'accusé. Et en tout cas, c'est le cas à Partenay. C'est ce qui est arrivé pour cet homme qui a évidemment a cru bon de ne pas répondre à la convocation. Puisqu'il s'est dit, je peux pas faire partie du jury, puisque c'est moi qui suis accusé de viol, en plus.
Ah oui.
Il était dehors.
Mais
il
non.
Il était chez lui.
Mais il aurait pu. Il a qu'à se lever. Chaque fois, il allait. Ça, il fait comme dans les one man shows, tu sais.
Il fait les deux personnages.
Un coup, il allait dans les accusés. Un coup, il allait dans le jury. Ouais. Mais non, mais il a rien fait. Je connaissais personne. Alors. Il était innocent.
Il était pas en prison alors.
Non, il était pas en prison. Il était
pas en prison pour viol, quand même.
C'est, en tout cas, il a failli être condamné à 150 euros d'amende pour ne pas s'être rendu à la convocation. Bon, finalement, après, la justice quand même a compris qu'il y avait là une grosse erreur du côté de la chancellerie. On affirme que ce cas est exceptionnel qu'il résulte d'un invraisemblable enchaînement de circonstances. Ouais. Jamais vous n'avez été désigné juré dans une cour d'assises, Olivier.
Mais c'est-à-dire que c'est le facteur, il a du mal à lui déposer un truc avec le bateau. C'est pas...
Jamais. Mais c'est vrai, personne. Vous connaissez quelqu'un, vous, qui a été juré, Pierre? Ouais. Dans quel procès?
Ben, on n'est pas juré pour un procès. On est juré pour une session.
J'avais une question pour vous, monsieur de Kersauzon, justement.
C'est mais attendez, mais il me torture, attendez.
C'est la suivante. Et là, alors là, celle-là, elle va vous passionner parce que vous seul pouvez certainement connaître la baie de Waimea. C'est sur la côte nord.
Vu la façon dont c'est prononcé, personne ne doit connaître.
C'est à Hawaï. Voilà.
Bien sûr.
Ça vous va, ça? Sur la côte nord de l'île d'Oahu.
Ouais.
Voilà.
Et alors?
Et là,
ils ont pas de consonne dans ce pays?
C'est ouais, les DW.
Et là a lieu actuellement le concours Eddie Aikao.
Ah, Eddie, le mec.
Ce concours ne s'est tenu que 8 fois en 25 ans. Pour quelle raison? Pour quelle raison le concours Eddie Aikao ne s'est-il tenu que 8 fois en 25 ans sur la côte nord de l'île d'Oahu?
Pour des conditions météorologiques
exceptionnelles.
Ouais.
Lesquelles?
Pour des vents de nord et des houles fortes.
Pas tout à fait.
On dit pas tout à fait quand je réponds.
De l'oral, le ton était génial. Le ton était génial. C'était vraiment un truc de flic, tu sais, avec qui finit en interrogatif, tu sais. Ouais. On dit pas que de la veille quand je réponds.
Non. Savez quand même.
Très bon. Très bon.
Il fait de l'orage.
8 fois seulement en 25 ans. Si vous trouvez quel genre de compétition.
C'est des plongeurs, non? Ils plongent.
Pas des plongeurs.
Du surf.
Ce sont des surfeurs.
Il faut qu'il y ait les vagues.
Il faut des grosses vagues.
Ah, mais oui, je l'ai vu, l'image.
C'est la partie nord de l'île, donc il faut qu'il y ait une houle de nord forte.
Alors, il faut qu'il y ait des vagues, là, mais...
De plus d'une certaine hauteur.
Exactement.
Voilà.
Alors, quelle hauteur?
15 mètres.
12 mètres, voilà. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon.
Bah, évidemment, on pose que des questions sur la mer. C'est normal qu'il est bon.
Bah oui, Strasbourg, les Ardennes, tout ça.
C'est une compétition hors norme. Et là, ils ont même dû affronter des murs de 15 mètres. Et la compétition porte le nom d'un surfeur hawaïen de légende qui est mort en 78 après avoir fait naufrage avec son canoë. Et la compétition ne se tient que lorsque les vagues dépassent 12 mètres, voilà pourquoi elle ne s'est tenue que 8 fois en 25 ans. 12 mètres, ça, vous avez déjà vu, vous, des vagues de 12 mètres, Olivier? Ah ouais, vraiment?
Oh. Ça fait 12 joujoux.
Ah mais dit comme ça, c'est vachement moins impressionnant.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. 12 joujoux, une vague de 12 joujoux.
Là au-dessus de l'autre.
J'ai 12 joujoux enfilés les uns sur les autres.
Tu files à 15 nœuds sur 12 joujoux, ça se fait croire. Ça fait beaucoup, hein.
Mais vous connaissez cette région-là, c'est une région où il y a...
C'est la partie nord d'Hawaï, donc quand il y a des dépressions fortes dans le nord d'Hawaï, ça fait une très forte houle qui arrive sur la côte nord. Là. Et les vagues lèvent bien parce que le plateau est un peu en pente.
Une autre question technique.
Et quand il y a une vague, là, je vous imagine, là, vous êtes là.
Non, ne m'imaginez pas.
Sur comment on appelle, c'est la proue, hein, il est là.
Oui,
à la proue.
Ouais, avec les bras écartés en train de chanter Céline Dion, c'est ça.
Ah ouais. Avec ses petites bottes, chauffantes.
T'imagines Kersauzon faire Titanic.
Avec ses chaussettes
avec une souris dans chaque botte.
Qui te réchauffe les pieds.
Et la doublure en couille d'or.
En disant, je suis le maître du monde, tabarnak.
Est-ce que tu m'as bien répondu ça un jour? Je t'ai demandé, mais quand tu sens ce danger, des balles de 10 mètres, des trucs comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu pleures, il me dit non, je hurle. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Je hurle tout le temps.
Extraordinaire, les marins. C'est pour ça que j'adore les marins. J'adore les marins, parce qu'ils hurlent. Tu vois. Formidable, ça fait les poumons. T'as qu'à voir, tu enlèves ta chemise, chérie. Ah, ce torse. Parce qu'il n'est pas très grand, mais il a un beau torse.
Vous vous moquez pas de mon Kersouzonnet, hein, attention.
Non, c'était le mien avant d'être le tien.
Attention.
Il s'appelait encore Ginette, moi.
Dans un instant, Serge Liado.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier
jusqu'à 18h30.
C'est la suite On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce mardi. Pierre Bénichoux, Philippe Gueluc, Titoff, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon, Michel Bernier, c'est la seule fille. On est rejoint par Monsieur Serge Liado.
Europe 1, On va se gêner. Do, Ré, Mi, Fa, Si, Liado.
Olivier de Kersauzon s'impatientait, Serge, il se disait, mais quand est-ce qu'on a la rubrique musicale de notre émission?
Que je m'en aille.
C'est sa petite récréation. Aujourd'hui.
Parce que aujourd'hui, vous intéressez
magnifique.
Au clip des jeunes de l'UMP avec la chanson Changer le monde.
Ouais.
Alors, c'est un clip qui fait le buzz sur Internet. Certains s'en moquent, d'autres trouvent que finalement, bah, puisque ça fait le buzz, ça fait le succès aussi de ce qu'ils ont réalisé. Mais c'est vrai qu'il y a certains ministres qui sont un peu ridicules. Mais il paraît qu'il y en a qui chantent vraiment dessus.
Nadine Morano, on dirait, oui.
Ah, Nadine Morano, elle chante vraiment.
Mais enfin, ils n'ont pas conservé sa voix, quand même.
Ça s'appelle Changer le monde, c'est une chanson de Luc Plamondon, c'est ça?
C'est ça, elle date de 76.
Et c'est une vieille chanson.
Ah oui, c'est un vieux truc qu'ils ont exhumé.
Ça va pas changer le monde.
Mais non, ça c'est autre chose.
Ils ont pas. Ça a juste été repris par la Starac québécoise.
C'est pas celle-là?
Non, c'est pas celle-là.
C'est Joe Dassin.
Justement, le but de Serge Liado, c'est de montrer que plutôt que d'aller chercher une vieille chanson au Québec, il y avait des chansons en France où on disait à peu près la même chose.
Bah oui, qui disent toutes changer le monde ou pas, hein. On va voir. Alors je vous demande bien sûr d'identifier les interprètes.
Et ça veut dire que les autres partis ont encore de quoi faire, ils peuvent encore choisir dans le répertoire qui reste.
Exactement, il y en a 10.
10 chansons et donc 10 interprètes qui eux aussi ont voulu changer le monde, 10 noms à découvrir.
Tous ceux qui veulent changer le monde, venez danser, venez chanter. Ça, c'est les jeunes de l'UMP.
J'aurais voulu changer les choses, changer le monde, avoir ce qu'il y a de mieux.
Tout le monde veut changer le monde, mais personne change personne.
Oui, on baisse les bras en se disant que
adulte, arrivé sur terre par catapulte, en espérant que les grands répondent, on va chanter pour changer le monde.
Je sais que si on veut, on peut changer le monde, juste avec des modes, et pour les autres.
Changer le monde, donner la vie.
On va le changer, ce putain de monde. Quoi? Comment je vais changer le monde? Avec un peu de musique. Écoute ça, tu vas voir. Tiens, écoute. 4, 3, 2.
Ça sert à quoi, mon gars, de chanter ça? Tu veux changer le monde et les étoiles sont avec toi, c'est ça. Ça sert à quoi, mon gars, de chanter ça? Plus on y croit.
Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses.
Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison.
Je trouvais ça super, moi.
C'est Nadine Morano-Codentan à la fin trouver ça super toujours enthousiaste.
Vous le dites Cabrel. Bon moi j'ai fait mon boulot.
Le dernier Jean Dassin.
Non le dernier c'était Cabrel.
Vous le dites juste avant.
Alors il y a
c'est Cabrel qui reprenait une chanson de Jean Dassin. Il y avait effectivement c'est peut-être la plus jolie des chansons d'ailleurs Le Pouvoir des Fleurs. Laurent vous le dites.
Florent Pagny.
Exact. Corneille. Exact. Zazie aussi.
Il y a Trio.
Frédéric François,
bravo.
Elle est trop forte.
Il y a Trio, Racine.
Non. Trio, oui.
Angie Jol, c'est pas Thomas Angie Jol.
Non, il n'y a pas Thomas Angie Jol.
Est-ce qu'il y a Doc Gynéco dedans?
Il y a Doc Gynéco.
Oui, Doc Gynéco.
Nadia.
Bah écoutez, Nadia.
Il
n'en manque plus qu'un. Bah je vais vous donner la réponse sur la chanson. Et Serge Liado a voulu montrer qu'il restait d'autres chansons pour changer le monde. Faites votre choix parmi celles-ci.
Ceux qui veulent changer le monde.
Ça, c'est la chanson des jeunes de l'UMP.
C'est la meilleure.
Ça, c'est les jeunes de l'UMP.
Oxmo Puccino.
Ouais.
Changer le monde.
Ça, c'est Nadia.
Ce qu'il y a de mieux.
Tout le monde veut changer le monde.
Florent Pagny.
Mais personne change personne.
Et on baisse les bras.
C'était bien Zazie, bravo.
Naître
adulte.
Celui qui vous manquait, Titoff l'a trouvé trop tard. C'était Oxmo Puccino.
En espérant que les grands répondent, on va chanter pour changer le monde.
Je sais que si on veut, on peut changer le monde.
Corneille, facilement identifiable.
Et pour les
changer le monde.
Notre petit Frédéric.
Il n'y a que vous pour retrouver Frédéric François.
Mais oui, je suis là pour ça.
C'était bien.
Le prochain c'est Doc Gynéco.
On va le changer ce putain de monde. Quoi, comment je vais changer le monde? Avec un peu de musique. Écoute ça, tu vas voir. Tiens, écoute.
Changer, ça sert à quoi mon gars de chanter ça? Tu veux changer le monde et les étoiles sont avec toi, c'est ça. Ça sert à quoi mon gars de chanter ça? Plus on y croit
pour changer tout ça.
Trio, Laurent Voulzy et le dernier, écoutez bien, Pierre, ce ne sera pas Joe Dassin, même si c'est sa chanson, c'est Francis Cabrel.
Le monde, que tu changes de maison. N'en parlons plus, et la vie continue.
Je trouve ça super, moi.
Moi aussi.
Merci Serge Liado, bravo à demain.
Salut à tous. Ils ont pas eu les droits sur cette chanson quand même.
C'est-à-dire
bah, ils ont envoyé un courrier pour demander l'autorisation de l'utiliser à Luc Plamondon et au producteur de la Starac au Québec. Ils ont répondu qu'ils ne voulaient pas qu'ils l'utilisent et ils en ont pas tenu compte. Et maintenant ils ont reçu une lettre de mise en demeure pour l'enlever du libdub de l'UMP.
C'est pas vrai.
Si, c'est vrai.
Les pauvres.
Bah, ouais, mais pourquoi ils ont pas pris la chanson de Doc Gynéco parce qu'il est de chez eux.
Bah, oui, en plus. Gynéco, ou de Gilbert Montagnier parce que lui.
Oui, bah on va t'aimer.
Il peut pas vérifier les comptes, c'est ça que vous voulez.
Ensemble à l'UMP.
Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant dans le Figaro aujourd'hui que vous avez peut-être lu. Ce sont des écologistes, trois députés écologistes qui râlent contre quelque chose qu'ils aimeraient supprimer parce que ça équivaut à peu près à un trajet de 350 km en voiture. Qu'est-ce qu'ils voudraient supprimer pour le bien de la planète et qui équivaut à un trajet de 350 km en voiture en termes évidemment de bilan carbone?
La présence de Rachida Dati à Strasbourg?
Non.
Jean-Pierre Bénichou éternu?
Non.
Les deux roues?
Non. Rouler pendant 350 km avec une bagnole, ben ça vaut à un truc.
À quelque chose. En fusée.
Qu'ils aimeraient qu'on supprime et
les flammes des briquets pendant 24 heures.
Et il y en a de plus en plus.
Les hippos.
Et c'est vrai que c'est supprimable, mais ça va.
Ah ouais,
c'est pas les deux roues, alors.
Non. Une journée de chauffage, de terrasse, de bistrot où on peut fumer dehors, là.
Bonne réponse d'Olivier Kersauzon.
Supprimer ça.
Oh non, ouais.
Ils vont nous faire chier
baskets.
Jusqu'à quand? Sérieusement.
Laissez-nous tranquille.
Avec leur planète qui se réchauffe. On peut même plus fumer une cigarette dehors dans un truc parce que ça va leur polluer la gueule.
Et ça me fait rire parce que les terrasses sont au bord des carrefours, tous les pots d'échappement qu'on se ramasse dans la figure, ça les dérange pas.
Tout ça dit.
Là, c'est quand même assez étonnant.
Quand on veut trouver, on trouve.
Mais non, mais ça doit quand même être des sacrés cons, les trois députés.
Ah oui, alors franchement.
Non, on peut pas dire ça.
Catégorie crétin chromé.
On peut le penser.
Toi, ça t'intéresse.
C'est 20% des bistrots. C'est 20% de leur chiffre d'affaires, les terrasses, là.
Mais il n'y a pas un système moins polluant pour chauffer les terrasses.
Mais pourquoi supprimer? Donc, à supprimer les emplois tout de suite, c'est naze.
Celui qui veut supprimer ces terrasses chauffées, le secrétaire national des Verts, monsieur Jean-Marc Brûlé.
Ouais. Ah bah oui, c'est pour ça.
Ceci explique cela.
C'est pas ça vrai. Ne s'invente pas. Ouais. Monsieur Jean-Marc Brûlé dit, à l'heure de la lutte contre les gaz à effet de serre, ce chauffage de l'air libre constitue le comble de l'absurdité.
Mais voilà, c'est vrai. Il a pas tort. Chauffons les jardins aussi.
Pourquoi pas. Et les serres, alors c'est quoi d'autre?
Si ça vous fait vraiment plaisir que le pôle Nord fonde. C'est vrai que toi, Olivier, quand les icebergs auront fondu complètement, tu seras plus. T'auras plus de place pour naviguer. Ben voilà, exactement. Lui, je comprends.
Oui. Peut-être il restera. Ce sera Noé.
C'est l'arche de Noé.
Et voilà. Et il nous prendra chacun.
De chaque espèce.
Si, j'aimerais bien vous voir rêver avec la personne avec qui vous allez vous reproduire. Vous.
Tu veux dire que. Justement, il faut que. Une photocopieuse.
Justement, il faut que vous sauviez chaque espèce. Je vous signale.
Si je fais Noé, je garde les droits vidéo. Hein.
Vous, avouez que vous me feriez monter sur. Votre petit cœur battrait pour moi et vous dire, oh, il faut quand même que je le sauve.
Ouais. Sur son bateau. Oui.
J'ai bien une tête à avoir un petit cœur qui bat. Moi, tiens. Non, mais bien sûr, je vous ferai monter.
Ah, merci, Olivier.
Pour vous faire redescendre aussi. Non, je vous aide.
Merci.
Mais je vous protégerai parce que vous êtes un génie.
Puis en plus, je peux aider, moi, sur un bateau parce que je connais des trucs. Hein.
Bien sûr.
Ah, ouais, c'est normal.
Ah, mais les marins, un peu seuls, ils vont.
La proue.
Ils vont avoir du divertissement.
Ah, ouais, ça.
Par exemple, tiens, je peux faire radio. Ah, tiens, voilà. Je peux parler, je peux communiquer. Oh, oui. Allô, Paris. Allô.
Mais on sera détruits, c'est fini, il y aura personne.
Allô, Paris, ça marche pas trop. Ouais,
Et puis. Non, mais vous pouvez faire du morse. Ta 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 ta.
Et puis, chaque fois que je passe sur le pont, tu sais. Alors, mon petit, c'est quoi ton métier? Ben, je suis moussaillon. Je vous le dis tous les jours, monsieur Ruquier.
Non, mais moi, je peux être utile. De toute façon, je joue quand on montera tous les deux sur l'arche de Noé.
On sera bien.
Pierre, on ne prendra pas, Pierre, parce que alors.
Sur un bateau, je suis d'aucune utilité.
Ah, vous voyez?
À part hurler pour commander mon Bloody Mary vers midi et quart.
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, si on va gêner, c'est l'heure au Ruquier.
On peut actuellement entendre dans un spot radio une petite voix d'enfant émouvante qui dit « Père Noël, je te demande rien d'autre que quoi ?»
Oh, c'est Sœur Emmanuelle qui remet une couche pour son bouquin, non?
Non. On entend sur certaines radios, c'est une nouvelle campagne qui vient de démarrer, une voix d'enfant qui dit « Père Noël, je te demande rien d'autre que quoi donc ?»
De retrouver mon papa et ma maman.
Non.
C'est pour une voiture, non?
Non, même qu'elle, quand même, elle dit que si elle avait eu ça, cette voix d'enfant, elle dit que sa mamie se serait peut-être réveillée.
De quoi? Elle est morte? Sa mamie est morte?
Oui.
Père Noël, je voudrais un cercueil pour ma mamie qui est morte parce que ça commence à fouetter grave.
Non. Oh non, ça c'est
si
pas possible.
On pouvait l'évacuer. On disait bien ça sent le sapin, mais on pensait que c'est Noël qui arrivait avec l'arbre.
C'est marrant, il était déjà méchant, il était déjà ignoble, et on pensait que c'est parce qu'il était aigri, mais maintenant qu'il réussit tellement bien, il est pire. C'est rare quand même.
Non mais, alors c'est une nouvelle campagne gouvernementale qui démarre.
Ah, c'est le gouvernement.
C'est à la télé, c'est à la radio, et on entend une voix d'enfant.
Ah, c'est contre une maladie alors.
Non, c'est pas contre une maladie.
Ah, c'est un signal qu'on donne à certaines vieilles personnes pour qu'elles puissent prévenir quand elles se sentent mal.
Non, pas du tout.
Le téléphone anti-chute, là?
Pas du tout. Pas de téléphone anti-chute.
C'est un appareil médical?
Père Noël, je te demande rien d'autre qu'un.
Un pacemaker pour mamie.
Un déambulateur.
Non.
C'est un petit canard qui fait le.
Ça tourne.
Un sextoy pour mamie.
Non, enfin.
C'est pas ça qui va la ressusciter.
Quoi,
mais tu respectes rien.
Ça peut ressusciter.
S'il y en avait eu un.
Un sapin.
Un préservatif, papy.
Ma mamie, elle se serait peut-être réveillée ce jour-là.
Un défibrillateur.
Non.
Un réveil.
Non.
Un bon café.
Non.
Un bon café, grand-mère.
Un extincteur.
Je peux pas faire plus, ça.
Un suppositoire.
Non, soyez gentil. Taisez-vous. Est-ce que tu peux recommencer à faire l'enfant?
Ouais.
Mamie, comment c'est?
Bah, vraiment, là, je vous donne quasiment tous les éléments du spot de campagne.
Mais redis-le.
Père Noël, je te demande rien d'autre qu'un... S'il y en avait eu un dans l'appartement, ma mamie, elle se serait peut-être réveillée ce jour-là.
Un extincteur.
Presque, mais pas un extincteur.
Un chauffe-eau.
Non. Qu'est-ce qu'il répond?
Un aérateur.
C'est pour les gaz...
Sa mamie a été asphyxiée par les émanations du gaz.
Un chauffe-bain. Un chauffe-eau neuf.
Un bras zéro.
Non, non.
Une alerte. Un truc anti-fumée.
Un détecteur de fumée. Détecteur de fumée. Bonne réponse collective.
Et pourquoi le petit fumier, il aurait pas mieux fait d'appeler quelqu'un pour sortir la grand-mère plutôt que se tirer et de la laisser cramer dans l'appartement?
La campagne dit exactement: Père Noël, je te demande rien d'autre qu'un détecteur avertisseur autonome de fumée. S'il y en avait eu un dans l'appartement ça de ma mamie, elle se serait peut-être réveillée le jour de l'incendie.
C'est un beau cadeau de Noël. Ben voilà.
Et ça, ouais, croyez-moi, si vous avez des enfants et que vous leur offrez un détecteur,
ils vont être heureux.
Un incendie, ça va bien marcher.
C'est mieux qu'une PlayStation.
Moi, je réfléchissais à ce que, tu vois, il y a des jeux vidéo, tout ça et tout.
Non, voilà.
Je vais dans un truc de sécurité, je vais acheter une bonne dizaine de...
Il y a l'absorbeur d'humidité aussi, ça fait toujours plaisir à Noël.
Les petits...
On voit bien un enfant dire ça à Père Noël, tout le monde qui a un détecteur avertisseur de fumée.
C'est ça. Le gamin qui écrit
numéro 3022X.
Non mais attends, mais l'enfant sait que si ses grands-parents vivent encore quelques années, ça fera des cadeaux à venir. Donc il a
c'est pas bête,
c'est un placement.
Et après, t'es obligé de te les cogner jusqu'à 60 ans toi-même. Et ça
mais non, après, tu enlèves les piles du détecteur. Quand tu penses que ça a assez duré, tu enlèves les piles du détecteur.
Et tu allumes toi-même le feu.
Le message est clair. Ne laissez pas la vie de ceux que vous aimez partir en fumée.
Oh là là. Oh, c'est gay. Oh là là.
C'est quoi la Qu'est-ce que c'est niaiseux.
En Belgique, c'est obligatoire depuis 2 ans.
Ah, vous voyez
Comme les gilets de, tu sais, les gilets fluorescents.
C'est pas la maison qu'il faut le porter.
Je porte mon gilet jaune tout le temps.
Ah, mais attends, bébé. Attention, là, t'as pas mis ton gilet jaune pour regarder la télé.
Mais n'oublie pas de l'enlever pour sortir.
Dans un instant, Paul Vermus nous donnera le résultat de cette challenge du jour.
Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
On va se gêner jusqu'à 18h30.
16h, 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec ses complices de ce mardi. Je voulais juste profiter d'une petite minute pour vous rappeler que vous pouvez évidemment assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le 3921, c'est le standard d'Europe 1, ou en allant sur le site www.europe1.fr.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Paul, est-ce que vous avez les résultats des enquêtes que je vous ai confiées? On va commencer peut-être par le prix décerné par l'Union des patrons et des professionnels juifs de France, le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme accordé à Brice Hortefeux. C'est pas une blague?
Bah absolument, c'est pas une blague. Je peux vous dire que ça a été décerné dimanche. Ça a eu lieu à l'espace Cardin. Ce prix, qui est une petite statuette représentant un chandelier à 7 branches, a été remis par le président de l'UPJF, qui est Richard Portugais. Alors, l'UPJF, c'est une association qui compte quand même 1200 chefs d'entreprise, hein, qui militent tous quand même en faveur de la libre entreprise.
Enfin,
même s'ils ont des positions assez pro-israéliennes.
Enfin, hein. Quand même, s'il y a quelqu'un qui, cette année, a créé le buzz à cause d'une phrase maladroite, on va dire, à propos d'un jeune militant UMP, qu'on soit... pour ou contre, d'accord ou pas, c'était maladroit, et qui n'aurait pas dû recevoir ce prix cette année, c'est bien lui, non?
Bah, ils ont des arguments pour lui donner ce prix, je voulais
donner
ces arguments. Bon, il est récompensé d'abord pour ses actions concrètes, hein, en faveur de la sécurité des écoles juives et des synagogues. Il est récompensé aussi pour la transparence des chiffres. C'est très sérieux, mais c'est les chiffres de recensement des actes antisémites.
Oui, mais Paul, oui. Je vous rappelle que c'est le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pas le prix de la lutte contre l'antisémitisme.
C'est-à-dire que, en fait, l'UPJF n'a pas pris très au sérieux les déclarations du ministre Hortefeux lors des universités UMP.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Voilà.
Il y a deux organisations qui s'occupent de lutter contre le racisme. L'un qui est la plus ancienne, qui était la LICA, qui est devenue la LICRA, la Ligue contre le racisme, et qui s'occupe presque uniquement de choses de mesures antisémites. Et l'autre qui s'appelle le MRAP, cette chose-là est totalement pro-palestinienne. Alors donc les deux se tirent la bourre et on arrive à ce truc absolument ignoble. Enfin, pas bien quoi. C'est que l'une défend que les Juifs et l'autre défend que les Arabes. Et donc c'est
la meilleure démonstration de racisme. Quoi.
Oui, c'est absolument ridicule. Et moi je suis contre toute organisation qui porte le mot juif en disant les patrons juifs, les machins juifs, c'était sous Pétain qu'on disait ça. Voilà. On ne doit plus dire ça. C'est des Français qui ont la religion qu'ils veulent.
Bon, voilà. On a compris. Vous
qui étaient les autres candidats, Paul ?
Écoutez, il était question de Luc Chatel, qui aurait pu avoir le prix, qui est ministre maintenant de l'enseignement, de Christian Estrosi. Je peux vous dire que Nicolas Sarkozy a eu ce prix lorsqu'il était place Beauvau. C'était en 2004. Hein. Et bon, c'est vrai que c'est une manifestation quand même très, très juive, puisqu'il y avait le patron du CRIF, il y avait le grand rabbin, il y avait le président du consistoire, bon. Mais voilà, en tous les cas, il a été applaudi. Hein.
Le Sénat, hier soir, alors quel est le nom de ce sénateur qui s'est planté, qui a voté contre au lieu de voter pour ?
Écoutez, vous allez rire, il s'appelle Jean-Jacques Pignard, c'est un sénateur du Rhône.
Voilà. Jean-Jacques voilà. Comment, vous dites ?
Jean-Jacques Pignard.
Pignard.
Pignard, oui. Alors bon, c'est le sénateur du Rhône.
Pignard, il est sénateur des Côtes du Rhône, non ?
Alors bon, d'après le président de l'Union centriste, hein, qui est porte-parole, Nicolas Habou, hein, il dit que cette affaire, c'est une opération politicienne organisée par un sénateur socialiste. C'est un hold-up législatif, en un mot. Je lui dis exactement ce qui s'est passé.
C'est-à-dire que Pignard a pas fait exprès ?
Voilà. D'abord, bon, le sénateur Jacques Pignard représentait les voix des 29 centristes. Il faut savoir qu'au Sénat, c'est le centre qui fait la majorité et qui l'a fait basculer d'un côté ou de l'autre. Hein.
Oui.
Alors, il s'est trompé en déposant les voix dans l'urne. Mais là, et ça, personne ne l'a dit, Laurent, l'huissier lui a dit « Écoutez, c'est pas très grave, récupérez vos bulletins, le scrutin n'est pas ouvert ». Et à ce moment-là, un socialiste a mis toutes les voix socialistes, ce qui fait que tout était mélangé. Le président de séance n'a pas tenu compte de l'information transmise par l'huissier, et ça a fait ce pataquès, voilà. Alors c'est une sorte de Thierry Henry.
Maintenant
voilà.
C'est clair pour nous, oui.
Vous avez compris ou pas ?
Oui, non, absolument.
Oui, oui, formidable. Oui. Merci,
c'est
Paul.
Clair comme du jus de
dites boudin, oui, parce que autrement il va recommencer.
Ah, oui, oui, on
ouais,
a bien compris,
tout compris
Paul,
d'un coup.
Clair.
C'est terrible.
Un peu de sexe, Tiger Woods.
Bon, alors, Tiger Woods, j'ai enquêté donc sur cette dénommée Michelle Brown. Hein, ouais, c'est ça que vous voulez savoir. Enquêté, oui. Je vous signale qu'elle est aujourd'hui officiellement entremetteuse. C'est une ancienne prostituée, mais qui aujourd'hui dirige un club de rencontres et une société d'hôtesses. C'est pour faire pour dessiner le personnage. C'est une jolie femme. Hein. Donc, elle était invitée sur le plateau de Fox News aux informations. Elle est arrivée, elle avait toutes les preuves. Je veux dire, je sais pas pourquoi, mais elle avait toutes les preuves de Tiger Woods, c'est-à-dire enregistrement téléphonique, transfert d'argent, photocopie des chèques. Et elle a commencé à balancer tout sur les goûts de Tiger Woods. Bon, alors qu'il aime les blondes à forte poitrine, qu'il aime les jeunes femmes qui ont moins de 25 ans, ça on l'a lu, qu'il aime les parties fines, on l'a lu.
Et sans préservatif.
Et sans préservatif, voilà, ça on l'a lu. Parmi les douzaines de filles qu'elle lui a présentées, moyennant en gros 25 000 dollars la nuit, ce qui est quand même un peu cher. Ouais, ouais.
25 000 dollars la nuit.
Le week-end, non pas la nuit, mais le week-end.
Et il payait par chèque?
Sur
le talon du chéquier, mais il marque quoi?
Pour lui, c'est normal. Pour un golfeur.
Dès qu'on abandonne le Sénat, dès qu'on abandonne les choses sérieuses, là, ça vous intéresse. Parmi les douzaines de filles, on a parlé d'une serveuse. Hein.
Ouais.
Mais moi, je peux vous dire plus. Je peux vous en dire plus.
Allez-y.
Ouais, ouais,
il y a une prof d'aérobic.
Une prof d'aérobic.
Il y a une shampooineuse.
Ah,
une shampooineuse.
Ouais,
normal.
Il y a une caissière de McDo,
ouais.
Il y a une serlette du X.
C'est de plus en plus chic, ouais.
Alors, pourquoi Michelle fait... On l'appelle Madame Michelle comme on appelait Madame
Michelle
avant. Hein,
la mère Michelle.
Qui a perdu sa chatte.
C'est pas moi non plus.
Ça, c'est ma mère. Ça.
Pourquoi la mère Michelle fait autant parler
d'elle? A-t-elle perdu sa chatte, oui.
Pourquoi elle fait autant parler d'elle?
Oui.
C'est qu'elle est conseillère depuis quelques semaines sur un film dont le tournage a commencé, et c'est pas des histoires, la société s'appelle Adam et Ève. C'est d'ailleurs cette société qui avait fait un film sur les exploits érotiques de Sarah Palin.
Ouais.
Et là, ils font un film sur les exploits érotiques de Tiger Woods. Ça s'appelle La tige en bois ou l'érection de la tige. J'ai pas bien pu traduire.
La tige en bois.
Voilà.
La tige en bois.
Elle est conseillère sur ce film. Et on est en train d'essayer, dit-elle, elle est en train d'essayer de récupérer certaines des jeunes femmes qui ont une aventure avec Tiger Woods pour les faire tourner dans ce film X, voilà.
Ah non, mais ça c'est du lourd, c'est de l'info.
Ah, c'est quand même du lourd. Bravo. Je peux vous dire que ce film sortira dans 2 mois et que si une des jeunes femmes acceptait de tourner, le cachet serait entre 250 000 et 500 000 euros. Hein.
Ah oui,
voilà.
C'est mieux qu'un week-end finalement avec Tiger Woods.
Voilà. Et ça, ça va faire du bruit et vous allez le lire dans les journaux. Dans
moi, je veux bien y aller, mais à condition qu'on cache mon visage.
Merci, Paul, pour toutes ces infos. On me signale que l'invité d'honneur est déjà dans la loge d'honneur dans quelques minutes. Mes camarades devront l'identifier.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Ces dernières semaines, parmi nos invités, nous avions Françoise Xenakis, c'était hier. Nous avons eu Mathilde Amet, Amanda Lear, Renaud est venu nous voir, Alain Ducasse, la réalisatrice José Dayan, Pascal Obispo. Tout est possible. Qui se cache dans cette loge d'honneur aujourd'hui? La voix de notre invité va être déformée. À vous de poser des questions.
Bon.
Notre invité répondra uniquement par oui ou par non. Oui, je me répète un peu tous les jours, mais en même temps, ça rappelle le principe, surtout à l'invité.
Bien sûr. Lui ne
sait pas qu'il doit faire des réponses courtes. Est-ce que vous avez bien compris, invité d'honneur, bonjour.
Bonjour.
De temps en temps, vous avez le droit à deux, trois mots quand même, autre que oui et non, mais jamais de phrases trop longues. Je vous laisse aux mains de mes camarades.
Est-ce que vous êtes José Dayan?
Non.
On l'a déjà eu, José Dayan.
Est-ce que vous êtes déjà venu depuis le mois de septembre?
Non.
Est-ce que vous êtes une femme?
Non.
Vous êtes un homme?
Ah, oui, j'ai trouvé. Ah non, il y en a d'autres.
Alors, est-ce que vous êtes un artiste?
Oui.
Un acteur?
Non.
Vous êtes un chanteur?
Non.
Ah.
Un écrivain?
Oui.
Ah. Wow. Bon.
Un écrivain?
Un écrivain best-seller?
Plutôt.
Un écrivain de ce siècle ou du siècle dernier?
Est-ce que vous êtes Victor Hugo?
Non.
Vous écrivez dans la presse? Ou vous êtes écrivain, vous écrivez des livres?
Vous avez écrit dans la presse?
Oui.
Mais c'est fini.
Mais aujourd'hui, que des bouquins.
Que des livres.
Des romans.
Des romans?
Oui.
Est-ce que vous avez eu un prix littéraire?
Oui.
Plusieurs?
Pourquoi vous pleurez quand vous parlez? La voix est déformée, mais pas les propos. Qu'est-ce qu'elle dit?
Qu'est-ce qu'il dit? Alors, un prix littéraire ou plusieurs? Un seul?
Oui.
Vous parlez de vous dans vos romans?
Non.
Vous écrivez des romans longs ou courts?
Non.
Long. Ah, non.
Ça, alors vous n'en avez pas
est-ce
eu.
Est-ce que certains de vos romans ont été adaptés au cinéma?
Non.
Ça vous énerve?
Oui.
Vous en avez écrit beaucoup des romans?
Oui.
Plus de 10?
Oui.
Je vais vous donner un indice. Notre invité d'honneur, qui donc écrit, vous l'aurez compris, voit ses livres traduits en au minimum 35 langues à travers le monde.
Est-ce que vous êtes brun?
Je suis brun.
Vous êtes un quadra?
Je suis un quadra.
Est-ce que vous avez écrit des romans sur les morts?
Oui.
Le prix que vous avez reçu, est-ce qu'il est attribué par des lecteurs ou bien c'est un grand prix littéraire donné par un jury?
Par les lecteurs.
C'est la voix de qui?
Alors, est-ce que tu penses qu'un jour tu aurais reçu un prix attribué par un grand jury littéraire?
Non, c'est con.
Non, mais c'est pour voir aussi quand il se fout de notre gueule, il change sa voix. On va lui dire qu'on en est capable aussi.
J'avais pari comme ça depuis longtemps.
Joujou semble avoir trouvé,
ouais,
mais posez une question pour peut-être vérifier quand même, Jérémy.
Oh, ben celle que j'ai posée juste avant.
Il y a quand même plusieurs auteurs qui
traduit dans 38 langues.
Ah. Est-ce que tu pourrais être de la famille, un cousin de Bernard-Henri Lévy?
Est-ce que vous êtes Marc Lévy?
Non. Ah non, c'est alors.
Ouf.
Non, vous avez des lunettes.
Oui. Ah non.
Donc
attendez.
J'ai trouvé.
Joujou a trouvé.
Est-ce que
vous aimez beaucoup les petites bêtes?
Bravo, Pierre.
Oui.
Attendez, je crois. Est-ce que vous n'êtes pas l'auteur de ce livre remarquable sorti ces temps-ci?
Ah
non, je suis con, c'est moi qui ai écrit ce livre.
Dites-moi, est-ce que vous avez été viré d'un grand journal par Pierre Bénichou?
Par Pierre Bénichou en personne.
Est-ce que vous avez une coiffure que j'apprécie et adopte personnellement?
Je suis solidaire de tous les gens qui ont la même coiffure que vous.
Alors, 1, 2, 3, vous avez trouvé, c'est
Bernard Werber
qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier
jusqu'à 18h30.
On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retourne du côté du studio Merlin, retrouve Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur qui a enfin été trouvé. Il s'agit d'un écrivain aujourd'hui.
Bernard Werber nous rejoint dans ce studio. Il publie Le Miroir de Cassandre, son dernier roman chez Albin Michel. Alors d'abord, quelle impression d'être dans cette loge et d'entendre mes camarades dire des âneries pendant 4 à 5 minutes?
C'est excellent.
Et c'est vrai que Pierre Bénichoux vous a viré du Nouvel Observateur?
Oui, c'est pas lui directement, mais c'est non. Bien. De toute façon...
J'ai beaucoup contribué.
J'ai pu commencer à écrire dès le moment où j'ai quitté le Nouvel Observateur. Il y a un moment où il faut quitter le nid pour s'envoler.
Mais vous avez un peu écrit dans le Nouvel Observateur ou pas?
7
du
ans.
Tout
En 7 ans, j'étais à la rubrique science, je faisais des reportages sur le terrain. Et puis à un moment, j'ai fait l'erreur qu'il ne faut pas faire. Je me suis présenté à un prix qui était le prix Moum, et j'ai été sélectionné comme finaliste. Et là, toute la rédaction a dit, bon, celui-là, on le vire.
Mais Pierre, toi, à part virer des gens, qu'est-ce que tu faisais au Nouvel Observateur?
Moi, je m'en fous, le prix Moum, je l'ai eu, moi. Donc, mais ça dit, non, mais c'est vrai qu'il est parti de l'Observateur, et qu'il y a des gens qui ont dit, bon, c'est pas une grosse perte. 6 mois plus tard, il faisait paraître un bouquin qui tirait à 800 000 exemplaires, ou un truc comme ça, on avait l'air bien con.
Le premier livre publié, c'était Les Fourmis ou pas?
C'était Les Fourmis, oui, j'ai mis 6 ans à trouver un éditeur, et 12 ans à l'écrire, mais c'était Les Fourmis.
La fameuse trilogie, on aura eu donc 3, Les Fourmis, Le Jour des Fourmis, La Révolution des Fourmis.
En fait, l'idée, c'est que je voulais dire que Les Fourmis n'avaient aucune importance, mais au moment où le livre est sorti, tout le monde s'est focalisé sur les fourmis. Et après, j'ai dû expliquer, attendez, je parle de tas d'autres choses que les fourmis, je parle de l'humanité, mais observée par d'autres êtres. Et là, j'ai choisi les plus bizarres, les plus petits, mais voilà, ça a décollé. Et après, il a fallu que j'explique, je parle des fourmis, mais je vais vous parler d'autres choses, notamment des morts, je sais pas qui c'est, qui faisait allusion.
Les thanatonautes.
Michalak a été le premier, je dois dire, à vous identifier. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste, Jérémy?
Ça, le roman sur les morts.
Non, mais vous avez posé une question sur les morts.
Ah non, parce que c'est l'auteur français traduit dans plus de 38 langues.
Il n'y en a pas 10 000.
Il n'y en a pas 10 000, non.
C'est vrai. Pas adapté au cinéma aussi.
Et qui n'est pas à Marseille.
Mais c'est vrai que c'est incroyable ça.
Et pourtant, le film de Lelouch, c'était pas une adaptation?
Non, j'ai fait un scénario original qui s'appelait donc Nos Amis les Terriens, mais c'était à base d'une idée d'une pièce qui s'appelait Nos Amis les Humains, ça a l'air presque pareil. C'était imaginons que des extraterrestres fassent un documentaire animalier sur nous et nous observent de manière complètement neutre, c'est-à-dire sans tous les a priori que nous avons quand nous observons nous-mêmes. Ils nous observent dans nos parades nuptiales, dans nos déplacements, et ils nous interprètent comme nous interprétons nous-mêmes les animaux, c'est-à-dire de manière complètement erronée. Et non, c'est un projet formidable que j'ai eu avec Lelouch, mais c'est un peu trop avant-gardiste. Je crois maintenant je ferai quelque chose de plus classique si je devais refaire.
Alors on va parler ensemble évidemment du Miroir de Cassandre, mais juste avant quand même, ils ne m'ont pas laissé le temps de vous donner des indices musicaux qui auraient permis de vous identifier au cas où. Évidemment, il n'était pas arrivé aussi rapidement sur la piste. J'avais ce premier indice et vous allez pouvoir expliquer pourquoi.
Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse.
Or, je ne sais pas si ça les aurait beaucoup aidés en même temps.
Pas bien, non.
Peut-être que Luc savait.
Mais
je suis né à Toulouse, oui, place Saint-Étienne, près de la cathédrale. Et j'ai vécu toute ma jeunesse là-bas.
Alors,
j'ai commencé comme j'ai travaillé à la Dépêche du Midi à Toulouse.
C'est Morane aujourd'hui qui chante Toulouse et les chansons de Nougaro dans un nouvel album. Mais justement, c'était aussi un deuxième indice, Morane, mais pas pour les mêmes raisons. Écoutez.
Pour les hommes, pour les hommes, pour toutes les ombres qui assurent, j'aimerais être de celles qui poseront ce grain de sel.
Pour les âmes, pour les hommes. Alors ça, c'est vrai, c'est vous qui avez réalisé le clip de cette chanson?
J'ai réalisé le clip, elle a eu l'amabilité de me le demander. Et, bon, c'est une femme formidable, c'est une chanteuse extraordinaire. Et humainement, c'est un bonheur. Donc, quand on a travaillé ensemble sur ce projet, ça a été que du plaisir.
On va faire connaissance avec Bernard Werber dans un instant. Et surtout, avec sa nouvelle héroïne, ce n'est pas Cassandre, mais c'est tout comme Le Miroir de Cassandre, c'est chez Albin Michel. On en parle après la pub.
Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
On va se gêner jusqu'à 18h30.
C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce mardi 15 décembre. Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Philippe Geluck, Jérémy Michalak, Titoff, Olivier de Carsozon et l'invité d'honneur, Monsieur Werber.
Alors ça tombe bien, on est en plein sommet de Copenhague et justement votre livre est lié entre autres à notre avenir environnemental et à l'écologie. Et cette jeune adolescente qui est autiste, je crois, j'ai pas encore lu votre livre, je vais pas mentir, mais j'en ai je crois un bon pitch et un bon résumé. C'est une jeune adolescente autiste qui manifestement peut lire l'avenir, mais on ne la croit pas, et elle prévoit une catastrophe environnementale.
Oui, oui. En fait, elle est connectée à l'antique Cassandre. Elle voit en rêve l'antique Cassandre. Et l'antique Cassandre, pour ceux qui se rappellent pas exactement l'histoire de la mythologie, c'est donc...
rappelle, mais vas-y quand même. Vas-y.
C'était la fille du roi de Priam, et il y a le dieu Apollon qui débarque, il la trouve plutôt mignonne, et il se dit, je vais lui faire un cadeau, je vais lui donner le don de voir le futur. Et elle veut lui dire merci, elle dit, plus tard. Et en fait, il revient plus tard, le dieu Apollon, et là, en fait, il a envie de la niquer, il faut appeler un chat, c'est comme ça que c'est dit dans la mythologie grecque, et là, elle dit, non.
À ce moment-là, il se dit... De la nikos, en grec, c'est...
J'ai envie de la nikos. Et il dit... Vu que j'enlève pas un cadeau, je te laisse le pouvoir de voir le futur. Par contre, je t'ajoute une malédiction, c'est que quand tu diras aux autres le futur que tu vois, personne ne t'écoutera. Et c'est elle qui va tout le temps dire, je sens que les Grecs vont arriver, je sens qu'ils vont nous faire un cadeau et qu'on va avoir des embêtements avec ce cadeau. Et au final, elle va tout le temps avertir, on va juste lui dire, tais-toi, tu es un oiseau de mauvaise augure, c'est toi qui attires le malheur. Et quand elle va avertir qu'il faut pas prendre le cheval de Troie, non, cheval de Troie, avec cette fameuse phrase, Timeo Danaos et Dona Ferentes, qui va dire, je crains les Grecs et leurs cadeaux. On va pas l'écouter, ils vont prendre le cheval de Troie, Ulysse va sortir, ils vont massacrer la ville, et il va y avoir qu'une seule survivante, Cassandre, qui va dire, pourquoi ils m'ont pas écouté, je leur avais bien dit. Et là, j'ai imaginé un personnage de Cassandre actuel, qui voit en rêve ce qui va arriver, et qui essaie d'avertir les autres, et personne ne l'écoute, et donc elle tombe exactement devant le même problème, mais elle va trouver un petit groupe qui va l'aider, qui est un groupe de clochards, et eux, vu qu'ils n'ont rien à perdre, ils vont l'aider à essayer de sauver la planète, et aussi à imaginer des futurs meilleurs, parce qu'on va comprendre qu'au bout d'un moment, faut arrêter de se focaliser sur tous les malheurs, parce que là, actuellement, quand on ouvre la télévision, on ouvre la radio, on entend que des horreurs. Mais il y a un moment, il faut arrêter d'être fasciné par le danger, il faut imaginer des sorties de secours. Et à la fin, avec ce groupe de clochards, elle va imaginer comment sauver l'humanité, comment bâtir un monde meilleur.
Alors, est-ce que ce sont les bonnes raisons, enfin, les bonnes solutions qu'on nous donne dans les médias? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait un écolo comme les autres. Et d'ailleurs, est-ce que vous l'êtes, écolo?
Ils m'ont proposé à un moment, les écolos, de venir les voir, puis j'ai vu, ils arrêtaient pas de se disputer. Je me suis dit, bon, ben, ça va être sans moi. Ce que j'ai comme vision, qui est une vision organique, je veux dire, de journaliste scientifique, si je regardais l'humanité, j'ai l'impression que notre problème se résume à un seul mot. Ça s'appelle le culte de la croissance. On veut avoir toujours plus d'enfants, toujours plus d'argent, toujours plus d'économies, toujours plus d'activités. Et il y a un moment, notre planète n'étant pas extensible, ce qu'il faudrait faire, c'est juste freiner et réfléchir. Mais ça, c'est pas proposé par les écolos. Les écolos, ils sont plutôt dans une sorte de moralisation. Mais ça sert à rien que si on est 10 milliards, on ne pourra pas offrir aux 10 milliards la télévision, le réfrigérateur, les deux voitures. Donc, il va y avoir des problèmes. Ce qui serait mieux, ça serait que on ait une sorte de stabilisation. Je parle plutôt de notion d'harmonie, c'est-à-dire harmonie de l'humanité et d'harmonie de l'humanité avec la planète. Mais cette notion, je l'ai vue nulle part dans aucun groupe écolo. Donc, en effet, je sors un peu des projets politiques habituels.
Et vous dites même, on ne peut pas être comme certains écolos et altermondialistes.
Je crois qu'au bout d'un moment, l'humanité, on est tous frères. C'est une sorte de masse d'individus. Et puis, cette idée de faire des frontières et des langues, c'est une convention entre les hommes qui correspond à rien. Alors, dire que un groupe a raison, un groupe a tort, c'est aussi stupide que dire que l'autre groupe a raison et que l'autre a tort. Il faut arrêter qu'on sorte de ces idées d'altermondialisme ou de je ne sais quoi. On est 6,7 milliards d'individus. Nous sommes à un moment particulier de l'humanité. Il y a autant d'individus vivants que d'individus morts. C'est-à-dire, si on ajoute tous les morts du passé, ça fait 6,7 milliards.
Ah oui, tiens.
C'est
ce
pile, ça fait un T. Et donc, ça veut dire que c'est peut-être le moment où il faut réfléchir sur notre nombre, sur notre masse et sur ce qu'on est en train de consommer et de détruire la planète.
Mais comment vous les avez comptés, les morts?
J'ai retrouvé ça sur Internet, il y avait une étude et ils ont calculé ça. C'est une probabilité, hein, c'est pas à 100 000 près.
Ça a l'air de vous intéresser, Gueluc.
Non, mais je connaissais cette information. On a effectivement imaginé combien il y a eu d'hommes au début de Homo sapiens, etc. Parce que c'est depuis l'apparition de l'homme sur la Terre. Et on a évalué qu'à un moment, la population mondiale était de, je sais pas, de 50 000 ou de 100 000 individus. Et puis ça a monté. On savait au Moyen-Âge combien il y avait d'hommes sur la Terre. Et en additionnant tout cela, on arrive effectivement à près de 7 milliards.
Dans le calcul, ils ont compté Johnny Hallyday ou pas?
Le miroir de Cassandre, on en reparle dans un instant. C'est chez Albin Michel, c'est le dernier succès, parce qu'à chaque fois c'est un succès de toute façon, de Bernard Werber.
Profitez bien des derniers instants d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et son invité d'honneur, l'écrivain Bernard Werber.
Est-ce que vous privilégiez toujours l'histoire sur le style? C'est ce qu'on vous reproche parfois, c'est vrai aussi pour celui-là?
Sur celui-là, j'ai fait une petite expérience, c'est que au lieu de faire l'action révèle la psychologie, j'ai fait la psychologie révèle l'action. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qui est Cassandre pour comprendre le mystère. Et là, j'ai inversé mes mécanismes. C'est vrai que moi, je privilégie l'histoire, je mets toute mon énergie dans la construction et surtout dans l'envie de surprendre. C'est une autre forme de littérature que la littérature des prix dont on parlait tout à l'heure. Mais je crois que ce qui est bien, c'est de faire confiance au lecteur, de se dire qu'il est capable de choisir lui-même ce qui l'intéresse et qu'il faut lui proposer un choix. S'ils veulent des jolies phrases, ils vont vers les prix littéraires. Et s'ils veulent une jolie histoire, ils vont plutôt vers moi. Voilà, mais laissons-les choisir. Pourquoi?
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis parfaitement d'accord. Si on veut se faire chier, on va vers les prix littéraires. Et si on veut vivre un bon moment de lecture, on va chez Verber.
Pierre Benichoux fait plutôt partie de la deuxième partie.
Non, lui, il lit rien.
Si.
Il a lu.
Là, il est en train de lire un courrier, d'ailleurs, qu'on lui a remis.
Pas du tout. C'est la liste des courses.
Pas du tout, non. Mais moi, c'est vrai que je suis moins pris par les histoires quand ce n'est pas porté par
le style,
par un style que j'aime. Mais c'est tout. Mais il y a des gens qui lisent comme toi les bandes dessinées qui sont pas plus cons que les autres.
Je dis pas des bandes dessinées. J'en fais, mais je n'en lis pas.
Où est-ce que tu les fais chez Casterman?
Je n'en lis pas. C'est comme toi, tu faisais un journal, mais tu le faisais pas.
Tu fais vraiment même pas des bandes dessinées. Tu fais des dessins toujours le même. Arrête de nous emmerder, espèce de sale belge de merde.
Je reviens au miroir de Cassandre, votre héroïne. Qui est donc
Elisabeth Tessier. Non. C'est elle qui dit ce qui va se passer et personne ne la croit.
Tiens, qu'est-ce qu'elle devient, elle? Alors, on n'entend plus parler.
Elle n'avait pas prévu qu'on parlerait plus d'elle
d'habitude,
cette année.
D'habitude, à cette époque de l'année, effectivement, ouais. on nous la ressort. La vôtre, elle est en contact avec Cassandre, mais alors j'ai l'impression qu'on va lui reprocher, alors qu'elle a fait les prédictions qu'il fallait, on va lui reprocher de ne pas les avoir faites, c'est ça?
De toute manière, le futur n'est pas à la mode. On fonctionne dans un système où le futur fait peur. Donc, dès que mon héroïne commence à dire, attendez, dans le futur, on risque d'aller dans cette direction, elle fait chier tout le monde. Et elle va recevoir des pressions pour lui dire, tais-toi, fais comme tout le monde, rentre dans le troupeau. Et elle, ce qu'elle dit, c'est, le troupeau, je le vois avec distance, et je vois où il va. J'essaie juste d'en parler. Mais elle a un problème, c'est qu'elle ne se rappelle pas de son passé. Par contre, elle se souvient de ses vies précédentes. Et elle peut, en fermant les yeux, voir tous ses ancêtres, tous les gens qui ont fait l'amour pour donner naissance, et elle peut les réunir en assemblée et leur demander des conseils. Et c'est ça qui va l'aider. Et c'est cette capacité assez étrange d'être connectée à tous ses ancêtres qui va lui permettre de se connecter au centre de ses cellules, parce que nous avons les traces de tous nos ancêtres dans nos cellules, Et elle est capable de faire ce travail et donc d'être aidée.
Ça, vous y croyez vraiment à ça?
Ah, je suis pas dans la croyance. Moi, je suis dans le récit qui va donner envie aux gens de se poser des questions. Pour la croyance, il faut aller voir les mystiques. Moi, je vais vous raconter des histoires qui vont vous faire poser de nouvelles questions et qui, j'espère, vont donner envie aux gens de penser différemment.
Est-ce que Homer, en écrivant l'Iliade et l'Odyssée, croyait vraiment qu'il y avait des dieux qui faisaient, qu'il y avait un pouvoir sur les hommes, etc.? Parce que voilà, on a un Homer de maintenant et là, il y avait un Homer d'alors.
Franchement.
Oh, non.
Je voyais venir.
Oh non, là, vraiment, moi aussi. Je l'ai vu, mais j'ai vu arriver depuis. Depuis trois phrases.
Moi, je pensais que t'allais parler d'Homer Simpson.
Almanach Pierre Dac, 1976.
Non, mais je pense vraiment qu'il y a, évidemment avec Cassandre une relation avec Homer.
Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il y a du boulot tout le temps. Voilà.
Parce que c'est écrit.
La recherche.
Ça est écrit.
C'est ce grand front, le grand front de Luc qui fait ça.
Et Claude Allègre, en deux mots, vous êtes plutôt pour ses thèses ou plutôt Allègre ou plutôt Hulot?
Ni l'un ni l'autre. Mais vraiment, tout à l'heure, vous avez dit, je suis un écolo en dehors du système des écolos. Je me sens dans aucune de ces paroisses. Puis j'ai l'impression qu'ils font de la politique. Et il y a un moment, l'écologie, c'est une sorte d'évidence. C'est comme se laver le matin. On se dit pas, est-ce qu'il y a un parti pour se laver le matin, un parti pour pas se laver le matin? C'est-à-dire, laisser la planète propre, c'est de l'hygiène. C'est l'évidence. Ça m'a l'air du bon sens.
Après. Mais pardon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laver le matin ou pas?
On n'est pas obligé. Mais
un poireau pour faire écolo.
À un moment, par exemple, mon héroïne, elle est projetée dans le futur et elle pense que dans le futur elle va être accueillie comme une sorte de fossile vivant, et dans le futur on lui fait un procès, on lui dit votre génération, vous avez foutu la planète en l'air, maintenant vous allez rendre des comptes, vous êtes la représentante des gens des années 2000, expliquez-nous pourquoi vous avez agi comme ça. Et voilà, moi j'ai envie de dire aux gens, plutôt qu'être écolo, posez-vous la question, comment vont nous juger nos descendants? Est-ce qu'il faudrait pas prévoir une sorte d'avocat de nos arrière-petits-enfants qui négocient avec nous, par exemple, à Copenhague. Un représentant des générations futures qui disent, eh ben, on est aux générations futures, je dis qu'il faudrait faire, faudrait préserver l'eau, faudrait préserver l'air, ouais, et puis peut-être repenser à la croissance.
Ouais, et t'as viré ces mecs, toi, Benichou, mais ben, dis donc.
Ah, bravo, mais il a honte.
C'est à cause de toi que le monde va mal, Pierre.
C'est très intelligent, tout ce qu'ils disent. Très intelligent, il y a qu'une chose avec laquelle je suis pas d'accord, c'est quand.
Très vite.
C'est quand tu dis, le futur n'est pas à la mode maintenant, tu as dit tout à l'heure. Or, jamais dans aucune période de l'humanité, on a autant tirer des plans sur le futur qu'on le fait aujourd'hui.
Mais il n'y a pas de vision proposée. Ce qu'on dit, c'est ayez peur. Et on ne dit pas, écoutez les gars, si vous voulez qu'on s'en sorte, il faudrait faire ça. Et c'est ça le problème. Et mon héroïne, elle imagine des solutions.
Le miroir de Cassandre, il faut dire que vous faites tout pour que ça marche. Hein. Non seulement c'est signé Bernard Werber. Bon, ça, vous pouvez faire, autrement.
C'est vous.
Mais c'est vous.
Vous allez comprendre où je veux en venir. C'est qu'en plus, vous foutez la photo d'Amélie Nothomb sur la couverture. Là, vraiment, Werber plus Nothomb, il y a de quoi faire un bon best-seller. Ça s'appelle Le miroir de Cassandre, c'est chez Albin Michel. À demain, 16h.
À demain, très cher Laurent, 16h, 18h30, on va gêner sur Europe 1.